Bonsoir, eh bien, ben j'ai été pris un peu de court parce que j'étais en train de causer en dehors du micro.
C'est pas beau.
Non, c'est très très mal, je le sais, je ne le ferai plus, c'est promis. Nous sommes le 29...
28.
28, pardon, 28 septembre, la Saint-Venceslas. Et demain, ce sera la Saint-Michel et Saint-Gabriel. Je trouve un peu mesquin, d'ailleurs, d'avoir fait une seule fête pour... ces deux archanges.
C'est la Saint-Michel demain.
Ah ben non, sur mon carnet, c'est noté Saint-Michel et Saint-Gabriel. Et je trouve vraiment que...
Si on pouvait, des nouveautés.
On pouvait bien leur donner un jour à chacun. Enfin, c'est comme ça, donc...
Dans mon temps, ils avaient chacun leur jour.
Comme mon frère s'appelle Michel,
mon filleul Michel, alors c'est bon.
Ben, saluons
bonne
tous
fête,
les Michels.
Michel.
Je donne d'ores et déjà le programme de l'émission pour que ceux qui ne s'intéressent pas aux questions qui seront évoquées puissent aller regarder la télévision. Alors, nous recevrons normalement Maître Georges-Paul Wagner qui nous parlera du programme de l'Institut National de Formation. Nous recevrons sûrement Monseigneur Mollet qui est prélat de sa sainteté, président des archivistes de l'Église de France, qui est membre de la Commission pontificale pour la conservation du patrimoine culturel et historique de l'Église, président d'honneur de la Société d'études mariales, chevalier de la Légion d'honneur, et qui a fait un travail tout à fait passionnant sur les prêtres et religieux dans la Résistance. Et nous parlerons de son travail de recherche sur cette question qui, de nos jours, est passée sous silence. Puis nous recevrons Marc Den, comme d'habitude, au téléphone. Ensuite, nous aurons un entretien que je vous avais promis depuis longtemps, et puis la chose ne se mettait pas en place, mais ça y est, elle est en place. Normalement, elle sera réalisée dans la deuxième partie de l'émission. Nous aurons un entretien à propos de Dozulé avec monsieur Jean Stigler. Alors, les avis sur Dozulé sont extrêmement partagés. Et nous parlerons de ça. Monsieur Jean Stigler, je le précise, n'est pas neutre dans l'affaire, puisque lui tient Dozulé pour un lieu d'apparition et de révélation. Nous verrons avec lui ce qu'il en pense, lui. Ensuite, nous retrouverons monsieur Blanza, qui est collectionneur de coxigrues, comme dit mon fils. C'est-à-dire que lui lit les journaux, pas d'un derrière distrait, mais d'un œil extrêmement pointu, et qu'il y trouve des choses rigolotes. Et puis, nous aurons Marie-Josée de Bravura. Avant, je voudrais faire une petite revue du courrier. Et je ne vous cacherai pas que depuis quelques semaines, je suis dans un état, d'accablement. Littéralement, d'accablement. Devant l'attitude de certains auditeurs à propos des questions de contrôle des naissances et de l'avortement. Alors, je voudrais pas y revenir toutes les semaines, on va pas en faire un abcès de fixation, bien que ce soit, à mon sens, la chose la plus importante du monde. Mais je voudrais dire une chose, c'est que j'ai reçu une lettre d'un auditeur, par exemple, qui me dit « Vous avez déclaré qu'on n'avait pas le droit d'imposer le contrôle des naissances aux Africains. » Bon, je vous lis pas la totalité de la lettre parce qu'elle est longue, mais je n'ai jamais parlé du contrôle des naissances. J'ai parlé de l'avortement, qui est une chose extrêmement précise. Et d'autre part, effectivement, on n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit sur ce terrain-là. Je le répète, c'est ma position, je n'en changerai pas. Si vraiment vous croyez que c'est un cas de guerre, que c'est un casus belli entre nous, il faut m'écrire et j'arrêterai l'émission. Je ne veux pas céder là-dessus. Je le dis, l'avortement est un crime abominable. Qu'il concerne des blancs ou des nègres, c'est la même chose. Et si vous croyez vraiment, je vous le dis du fond du cœur, que l'avortement est une solution au faux problème de la surpopulation, qui est un problème inventé par les B'nai B'rith, et j'aurai là-dessus beaucoup de choses à expliquer un jour, c'est un mensonge absolu, c'est un trafic d'informations, c'est une désinformation scandaleuse et démoniaque. Il n'y a aucun risque de surpopulation. Mais si vous croyez vraiment, si vous avez le crâne bourré par ce mensonge épouvantable, Eh bien, je vous le dis, si une majorité d'auditeurs trouve que il faut que j'arrête cette émission, je l'arrêterai. Je n'ai pas envie de continuer à parler à des gens qui, sur ce plan-là, ont une position aussi inacceptable. Voilà. Je le dis à la fois avec déchirement et d'une façon très paisible. Et pour vous donner un exemple, un seul, du genre de courrier que ma position me vaut, je reçois une carte postale pornographique, qui n'est évidemment pas signée. Si, elle est signée d'ailleurs d'une façon significative, rue 486. Et elle me dit, c'est pour tes grenouilles de bénitier, ayatollah de merde, qu'elle coa et multiplie, et toi et tes muscadins royalistes pourris, on vous coupera les oreilles, alors il n'y a pas écrit oreilles, et on tuera tes gosses comme en Vendée. Voilà le genre de folie diabolique que ce sujet provoque. Alors, je vous le dis encore une fois, très posément et très paisiblement, c'est une chose sur laquelle je ne céderai pas. Je ne suis pas disposé à changer d'avis. Je répète que la surpopulation est un mensonge pur, inventé par la franc-maçonnerie et par l'Ibn Ibrit, et je le prouverai prochainement dans un exposé que je ferai, et que ceux qui y croient sont au minimum mal informés, et de toute façon, que ceux qui pensent que la solution c'est l'avortement ne peuvent pas se réclamer de la dignité de catholique. Voilà. Passons à autre chose. Il y a un autre problème qui est beaucoup plus urgent, qui est beaucoup plus grave. C'est ce qui se passe en Algérie. On aurait pu penser que 30 ans après, les problèmes algériens n'étaient plus de notre ressort. Il se trouve que plus que jamais, ils sont de notre ressort, puisque on a appris ce soir que ordre avait été donné par le ministère des Affaires étrangères d'instaurer, en quelque sorte d'annuler, plus exactement, la législation française sur les visas distribués aux Algériens, puisque les visas qui étaient jusqu'à présent distribués par les consulats seront désormais attribués directement par les agences de voyage et les compagnies aériennes en Algérie. Ce qui, en clair, veut dire qu'il y a une suppression du visa, puisqu'ils seront distribués sans aucun contrôle de la part des autorités françaises. Et il est probable que dans les semaines et les mois qui vont venir, nous allons voir déferler des dizaines de milliers, probablement des centaines de milliers de réfugiés algériens en France. Je sais déjà, et on va, je pense, nous en parler tout de suite, que le gouvernement est en train de faire recenser en France tous les établissements susceptibles de recevoir des réfugiés, c'est-à-dire les colonies de vacances, les centres de loisirs, les centres de repos désaffectés. Et c'est vraiment un problème qui va se poser d'une façon extraordinairement aiguë en ce 50e anniversaire de la libération. Le Cercle national des combattants de Roger Hollande vient de rendre public un communiqué sur cette question. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Roger Hollande d'être présent au téléphone pour nous préciser sa position. Roger ?
Oui, je vous écoute, je t'entends très bien.
Bonsoir Roger, comment vas-tu ?
Ben ça va, mais enfin je dois dire que sans faire de cinéma, je suis quand même catastrophé, affligé. Je me demande vraiment ce qui nous arrive une fois de plus sur la tête. Parce que là aussi, on pouvait penser à tout, mais même dans les délires les plus extrémistes, on ne pouvait pas penser que ces gens en arriveraient là. Moi, je ne mâche pas mes mots, je pense que c'est tout simplement de la haute trahison. C'est tout simplement de la haute trahison, et que tout ça, ça relèvera un jour quand la France aura entre des mains propres de la haute cour de justice.
Alors, ce communiqué du Cercle national des combattants, je ne te demande pas de nous le lire, mais je voudrais que tu nous en donnes la matière, le contenu.
Eh bien, le contenu, il faut quand même que je lise au moins la phrase centrale pour pouvoir broder autour. Hein. C'est que je mets non content d'avoir pourri l'opinion et relancé la guerre franco-française avec des histoires vieilles de 50 ans, M. Balladur, Pasqua et leurs amis se préparent à capituler et à accueillir sur notre sol toute la nomenclature FLN. Le FLN a tué nos soldats, égorgé des centaines de milliers de musulmans fidèles à la France et chassé de leur terre natale plus d'un million de pieds noirs. Je pense que tout cela, ça résume hein, le fait que nous appelons à la mobilisation. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer une très grande réunion sur Paris hein, qui se fera sur le thème non au collabo, non à l'invasion. Hein, le Cercle National des Combattants déclare la patrie en danger. Et je pense vraiment ce que je dis. Je pense vraiment ce que je dis. Et je crois que si nous faisons le nécessaire en tant que patriotes, nous risquons d'être entendus dans le pays, parce que là, j'ai un peu roulé hier et aujourd'hui. Je me suis arrêté boire le café, comme je fais souvent dans les bistrots quand je conduis. Hein, et j'ai eu quand même des échos. Là, les gens, comme à part ceux qui ne sont pas avertis, ceux à qui on n'a pas expliqué la chose, mais ceux qui savent ce que tu viens de dire au sujet des préparatifs diligentés par Monsieur Pasqua sont catastrophés et disent cette fois-ci c'est quand même un peu gros, parce qu'il faut quand même pas oublier que tous ces gens vont être nourris, logés à l'œil, hein, et qu'ils vont s'ajouter aux millions de chômeurs que nous avons déjà dans ce pays.
Raisonnablement, à combien peut-on évaluer le nombre des réfugiés potentiels?
Bon, M. Pasqua parle, lui, d'un minimum de 250 000. Mais si, comme tu viens le dire, et tu me l'apprends parce que je ne le savais pas, je suis en plein boulot cet après-midi, là, et ils ont décidé de donner aux compagnies aériennes le droit de distribuer des visas, ce que... Là aussi, c'est interdit par la loi. La Constitution ne prévoit pas que des marchands de voyage doivent te donner le visa pour rentrer dans un pays, étant donné que ces marchands de voyage, en donnant un visa, hein, s'engagent pour rien. C'est pas eux qui vont payer la vie de ces gens-là pendant les dix ans à venir, puisque le fait qu'ils seront là, ben, ils seront une fois de plus chez eux. Tout ça ne ressemble strictement plus à rien, et ça rentre dans le cadre, pour moi, de la haute trahison. Alors je pense qu'ils ont bonne mine en venant nous parler hein, des collabos d'il y a 50 ans, hein, mais parmi les collabos, il y avait au moins des types qui s'étaient battus aux frontières pour empêcher les Allemands d'arriver, et ceux qui ont collaboré, c'était sous l'occupation allemande, les blindés des Boches étaient là, alors que là, il n'y a rien, et qu'ils ouvrent les frontières tout en ayant des problèmes chaque jour, chaque nuit, dans les banlieues. Alors, c'est multiplié par 100 ce risque, hein. Il faut voir quand même aussi à ce sujet ce que racontent les télés, ce que racontent les radios. Il faut avoir entendu Monsieur Poivre d'Arvor hier soir aux informations, disant ces jeunes abandonnés dans des ghettos sordides de banlieue. Enfin, quand on connaît ces soi-disant ghettos, ce sont des bâtiments à peu près neufs, mis en bon état, remis constamment en bon état, boîte aux lettres, ascenseur, peinture. Moi, quand j'étais gosse, j'ai habité, comme beaucoup de Français, dans des HLM. Hein, ben, si on les déglinguait, ils étaient déglingués, puis c'est tout. Hein. Alors, on leur donne entièrement raison. Et dans le même temps, il faut entendre la publicité qui est faite sur toutes les chaînes de radio et toutes les demi-heures sur tous les postes périphériques et autres, disant, si vous devenez Français, c'est très facile aujourd'hui. Enfin, on croit vraiment, vraiment rêver. Je pense que là, les mondialistes ont passé une vitesse, et c'est peut-être jusque-là, ils ont eu une grande patience, hein. Ils ont enrobé tout ça dans du miel, et c'est passé en 40 ans, ils étaient arrivés presque au but, mais je crois que là, pas loin du but, ils perdent les pédales, ils passent les vitesses, ils risquent de faire sauter le moteur, de griller le moteur, et d'avoir quand même une levée de bouclier devant eux.
En tout cas, le bouclier est déjà levé en ce qui concerne le CNC. Ça n'étonnera personne. Donc, la date de la réunion n'est pas encore la date,
il faut quand même bien savoir que je suis en train de m'en occuper depuis hier soir. C'est difficile de trouver une salle sur Paris. Et il faut que les amis qui nous écoutent, sachent que dans ce pays de démocratie et de liberté et du droit soi-disant à la parole, hein, une salle comme... pour recevoir 3 000 ou 4 000 personnes, hein, revient à environ 50 000 francs. Ça revient à environ 50 000 francs. Donc il faut déjà que je trouve aussi l'argent. L'argent pour cela, on se débrouille comme on a toujours fait. Mais enfin, on ne peut engager que ses frais qu'après avoir fait quand même une certaine publicité, être sûr de rentrer dans nos frais, parce que il faut que les gens soient présents pour pouvoir rembourser la salle. Ça, tout cela paraît sordide, mais c'est l'exacte vérité, et c'est le problème qui est posé constamment au mouvement qui, comme nous, qui ne sont pas très riches. Voilà le problème. Mais on fera quand même cette salle, hein, et je répète le thème, hein, qui n'est pas officiel, mais je l'ai dans la tête depuis hier, et je pense que Jean-Marie Le Pen, qui prendra la parole à ce meeting, il m'a donné son accord par fax, hein, le thème, ça sera non au collabo, non à l'invasion, hein, le Cercle National des Combattants décrète la patrie en danger. Je crois vraiment que c'est pas du bidon, c'est pas du pipeau, c'est pas du cinéma. Moi, je pense vraiment que si dans les 18, 24 mois qui viennent, nous n'avons pas réglé le problème, ce pays est foutu. Voilà. Mais je le crois en pleurant je le crois vraiment. Et lorsque nous disons ça depuis des mois, nous avons toujours des braves gens, aussi bien à ta radio qu'ailleurs, qui nous écrivent ou qui s'étoient au téléphone. Mais vous ne croyez pas que vous faites dans le sensationnel. Mais vous ne croyez pas que vous lancez la balle un peu loin. À force de faire dans le sensationnel et de lancer la balle un peu loin, tout ce qui arrive est bien pire que ce que nous avons prédit.
Roger, je te remercie. Enfin, quand je dis je te remercie d'être avec nous, parce que je ne peux pas te remercier de dire ce que tu dis, puisque ça n'est que motif de tristesse, et on ne remercie pas Cassandre.
Ben, je sais que tu seras à nos côtés pour cette bataille, et que tous les auditeurs de notre belle radio libre là seront aussi à nos côtés, parce qu'il est temps de mobiliser. Et avant de quitter, je veux tous les embrasser, leur dire au revoir et leur dire la patrie est en danger.
À bientôt, Roger.
Au revoir.
Alors, je vous rappelle que si vous voulez venir en aide au Cercle National des Combattants pour l'organisation de cette réunion, vous pouvez envoyer l'aide que vous voulez, sous la forme que vous voulez, au CNC, 38 rue des Entrepreneurs, 75 015 Paris. Vous pouvez également lui téléphoner au 40 59 07 66 ou lui envoyer un fax au 45 77 12 54. Une lettre d'auditrice qui me raconte l'anecdote suivante, qui donne une assez bonne ambiance à la billetterie d'une FNAC très fréquentée par les adolescents, où on achète des billets de concerts de rock. Une petite coupe en verre avec l'étiquette « Servez-vous » attire notre attention à proximité de la caisse. Ma fille saisit une pastille de menthe. Que nenni, il s'agit d'un préservatif. Voilà ce qu'on voit maintenant tous les jours, de façon naturelle, normale. Si vous êtes client de la FNAC, ne mangez surtout pas les bonbons qui sont proposés à votre gourmandise. Je crois que c'est à peu près tout pour les mauvaises nouvelles. Les bonnes, hélas, ne sont pas très nombreuses. Je vais vous les donner, puisqu'on n'a pas pu faire de mini-journal faute d'informations disponibles. Je vais vous donner les informations qui sont contenues dans le point de l'actualité de présent qui est en vente dès cet après-midi à Paris et qui sera en kiosque demain matin. À Franconville, une nouvelle affaire pour le Parti Républicain. Entre les affaires et la mauvaise gestion, le Parti Républicain coûte cher aux contribuables, a déclaré Jean-Yves Le Gallou, rappelant que les déboires immobiliers de la CEMAF, Société d'économie mixte de Franconville, présidée par Francis Delattre, député maire PR, conduisent à abandonner le projet de suppression d'un passage à niveau déjà à moitié réalisé, ce qui représente une dépense parfaitement inutile de 95 millions et demi de francs à la charge du Conseil régional, du Conseil général, de l'État et de la SNCF. Alors, toutes nos félicitations à monsieur Francis Delattre. 95 millions de francs, c'est quand même pas rien. Ça fait 10 milliards, ça fait 9 milliards et demi de centimes. La garde des Sceaux le Crédit Lyonnais perd encore 4 500 000 francs. Ça vient d'être annoncé. Il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que. Oui, j'ai dit millions, oui, milliards, bien sûr, 4 milliards et demi de francs. 4 millions, c'est une plaisanterie. Il y a une bonne nouvelle, c'est que la radio du Sacré-Cœur, qui avait été interdite en 1992 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite d'une répugnante scandale de une répugnante affaire de diffamation, de désinformation diffamatoire, eh bien cette radio du Sacré-Cœur vient de voir annulée par le Conseil d'État la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise sous pression politique. Et par un arrêt du 26 septembre 1994, autorise la réouverture de la radio du Sacré-Cœur qui avait été créée en 1987 dans la région sud de Paris, notamment du côté de Fontainebleau, et qui s'est toujours affirmée comme une radio catholique et royaliste, dévote au Sacré-Cœur, en faisant sienne cette phrase du Christ « Je régnerai malgré mes ennemis ». Irréprochables ont voulu l'interdire, dit présent, on le fit sans raison valable, vient de décider le Conseil d'État. La radio du Sacré-Cœur reprendra prochainement ses émissions. Même si, raquette d'État, dit présent, même si vous décidez de ne plus utiliser vos postes de télévision que pour regarder des cassettes vidéo, même si vous avez débranché le récepteur tuner et arraché la prise d'antenne, vous devez payer votre redevance de télévision. C'est ce qu'a confirmé le gouvernement dans une réponse à l'Assemblée nationale. Nouveaux incidents à Lille. Deux véhicules en stationnement ont été incendiés mardi par des jeunes dans le quartier du Faubourg de Béthune à Lille, où la tension après les incidents du week-end était encore perceptible. L'un des véhicules a brûlé à l'endroit exact où Reynald Briclot, 24 ans, a été tué samedi soir à la suite d'une querelle de voisinage. Le traitement des déchets coûte de plus en plus cher à la communauté. La dépense nationale pour la collecte et le traitement de ces déchets a augmenté de 80% en 10 ans. Elle est passée de 8 milliards à 14,8 milliards en 1992, de 8 milliards en 81. À 14,8 milliards en 92, l'Institut français de l'environnement, qui vient de publier une étude sur la gestion des déchets ménagers par les communes, souligne désormais que la collecte touche pratiquement toute la population. Moi, il y a une chose qui m'étonne, je ne sais pas ce que vous en pensez, Victoria, dans cette histoire, c'est que plus les Français sont pauvres, et plus ils font d'ordures. En 81, il y avait 2 millions de chômeurs, il y en a à peu près 7 millions maintenant. Et bien, apparemment, les chômeurs font plus d'ordures que les gens qui travaillent, il faudrait croire.
Ben oui.
Tout augmente. Après 12 ans de socialisme, il y a de plus en plus d'ordures. Arlette Laguiller, le retour. Porte-parole de lutte ouvrière, Arlette Laguiller a annoncé qu'elle serait candidate à la prochaine élection présidentielle. À 54 ans, c'est la quatrième fois qu'elle brigue les suffrages des Français à l'occasion du scrutin. Elle a bien raison. Au moins, ça fait des moments rigolos dans la campagne. Le défi de Myung-Woon Chung, directeur musical de l'Opéra de Paris, qui a reçu sa lettre de licenciement le 17 septembre, propose au ministre de la Culture d'économiser 40 millions de francs en le gardant à son poste gratuitement au moment où, pour économiser 20 millions de francs, on va licencier 120 membres de l'établissement. C'est assez rigolo, ça.
Oui. Hein ?
On va voir ce que va dire le ministre de la Culture, Michel Toubon. Les cheminots du dépôt de SNCF de Rennes sont en grève depuis vendredi à l'appel de la CGT et de la CFDT pour protester contre la déqualification imposée par la direction sur certains postes. Ils ont décidé de reconduire leur mouvement pour 24 heures, ce qui va certainement rendre service à tout le monde. Poursuite du mouvement de grève à la source Perrier, où les 1800 salariés protestent contre un plan de 600 suppressions d'emplois d'ici juin 1995. Suppression d'emplois chez Pavaillier, équipement de boulangerie à Porte-l'Essence dans la Drôme. La société Pavaillier, un des trois grands fournisseurs de matériel de boulangerie en France, envisage de supprimer 88 emplois sur 400 en raison de la baisse de l'investissement des boulangeries. Et voilà. Tout ça pour vous dire que, véritablement, c'est la reprise. Vous n'avez pas remarqué, on vous le dit toute la journée, je vous le confirme, vous voyez, c'est la reprise. C'est la reprise des licenciements, c'est ça que je voulais dire, bien entendu. Et puis une dernière nouvelle, une bonne nouvelle, j'en parle maintenant et j'en reparlerai plus tard. Le dîner traditionnel du Libre Journal, car comme il a eu lieu l'année dernière et qu'on le refait cette année, c'est devenu un dîner traditionnel, aura lieu le 21 octobre. Cette année, on peut prendre un peu de recul, il y a moins d'urgence. Donc le 21 octobre, à 20h, et ce sera l'occasion d'une soirée exceptionnelle, puisque ça aura lieu à bord du Zouave, sur la Seine, au pont de l'Alma,
Au Pouglanma, toujours.
Vous y serez, Victoria.
Je ne sors pas le soir.
Bon, on viendra vous chercher de force avec une bouée et on vous emmène.
Donc, si vous voulez, de l'eau.
Le prix du dîner, c'est quelque chose comme 220 francs, je crois. Voilà, 220 francs, c'est Philippe Varlet qui me fait signe que oui. Et oui, non, bah, évidemment, si vous voulez donner 250 francs, on ne vous les enverra pas dans la figure, c'est certain. Mais enfin, le prix du dîner, c'est 220 francs. Et ça se passe le vendredi 21 octobre à 20h à bord du Zouave. Donc soyez gentils de réserver le plus tôt possible pour qu'on puisse savoir combien on demande de tables à M. Bruel. On sera entre nous, il n'y aura personne d'autre à bord. Vendredi 21 octobre à 20h, 220 francs, et vous téléphonez ou vous écrivez 139 boulevard de Magenta, puis vous mettez le chèque avec d'ailleurs, pour réserver 220 francs par personne. Merci. Fin de notre plage publicitaire. Et pour bien marquer la séparation entre tout ce que je viens de dire avant et tout ce que nous allons dire maintenant avec mon invité, nous allons écouter un petit peu de musique, peut-être, une forme d'hommage à Madame Madeleine Renaud, qui est allée rejoindre son mari. Elle a donc exécuté la prescription selon laquelle la femme doit suivre son mari. Et on va écouter quelque chose pour saluer cette grande comédienne disparue.
Vous connaissez bien Paris, au moins?
Si je connais Paris, mais c'est du français, ça. Comment si je connais Paris, Madame la Baronne? Mais je crois bien. Jamais fois de Cicérone, la moderne Babylone n'aura vu, soyez-en sûr, dans ses murs étranges et mieux promener, mieux guider, piloter, amuser, diriger, puis berger, mieux lotir, divertir, réjouir, éblouir. Et pour cela, vous verrez, et pour cela, vous paierez, monsieur, monsieur, ce que vous voudrez. On vous payera ce qu'il faudra. Ah, ne parlons pas de cela, laissons là cette misère. Nous nous entendrons, je l'espère.
On vous paiera ce qu'il faudra.
Un pareil mot doit me suffire. Dites-moi maintenant, dites-moi, dites-moi où je dois vous conduire, où je dois vous conduire. Moi je voudrais voir les théâtres, pas ceux où l'on s'embête, mais ceux où des actrices folâtres offrent au regard mille attraits. Soit monsieur, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment, nous irons là? Oui, vous verrez tout cela.
Je veux moi dans la capitale voir les divas qui font fureur, voir la Patti, Dodo Pasquale et Teresa dans le sapeur.
Madame, oui, nous irons là et vous verrez tout cela.
Et quoi vraiment? Nous irons là.
Oui, vous verrez tout cela.
Vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Et quoi vraiment? Vous y verrez.
Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout.
Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout.
Oh, je serai votre guide. Oh,
je serai votre guide.
Vous serez notre guide.
Je serai votre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai notre guide dans la ville splendide, oui, et nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide, nous irons partout, partout, partout.
Alors, c'était Madeleine Renaud, et mais pas Jean-Louis Barrault. Qui c'était?
Pierre Bertin.
Pierre Bertin, ben, admirable Pierre Bertin, et Madeleine Renaud dans La Petite Voix.
Il n'y avait pas Jean de Sailly ?
Et Jean de Sailly, voilà, elle sait tout, Victoria Palmira.
Je l'ai entendu.
Le meilleur enregistrement, nous dit Philippe qui s'y connaît, et il s'agit d'un enregistrement réalisé par Musidisc, qui est probablement introuvable, donc c'est pas la peine que je vous donne les coordonnées. Ça doit avoir 67 ans, ce truc. Alors, comme d'habitude, je précise que mes invités ne sont pas comptables, si j'ose dire, des propos qui sont tenus dans l'émission en dehors des propos qu'ils tiennent eux-mêmes. Ça vaut pour tous les invités, quels qu'ils soient, et ça vaut donc ce soir pour Mgr Mollet, qui nous a fait l'honneur d'accepter de participer à cette émission, pour évoquer un point d'histoire. Mgr Mollet, je l'ai dit, est prélat de sa sainteté, il est président des archivistes de l'Église de France, il est membre de la commission pontificale pour la conservation du patrimoine culturel et historique de l'Église, il est président d'honneur de la Société d'études mariales, il est chevalier de la Légion d'honneur, et je livre ce détail qui n'est pas sans intérêt pour la suite de notre entretien. Il a participé activement, je dirais presque militairement, à la libération de Paris, participation qui lui a valu à l'époque les félicitations du gouvernement et avec mention spéciale au journal officiel. Et donc le sujet qu'il va évoquer ce soir, il l'évoque à la fois en tant qu'historien et en tant que partie prenante, et ce sujet me paraît imposé par l'actualité, par une actualité un peu traînante, un peu rémanente ou récidiviste, depuis quelques mois, et peut-être même depuis quelques années. Il s'agit du rôle du clergé pendant cette période des heures les plus sombres. Et en tout cas, ce soir, spécialement, avec Mgr Mollet, nous allons parler, enfin plus exactement, lui va parler, et moi je vais l'interroger, sur la question des prêtres et religieux dans la résistance. Parce que je sais pas s'il faut parler de campagne, enfin rumeur, une espèce de, non pas conviction, mais une espèce de consensus, voilà, une espèce de consensus est en train de s'installer avec l'appui de nombreux médias sur l'idée que l'Église de France et les prêtres de France, au cours de cette période terrible, se seraient comportés au moins comme des complices silencieux de la persécution et de l'occupation, et au pire comme des complices actifs et dynamiques de la politique antisémitique de l'occupant. Et je crois que tout ça mérite quand même, au moins, que de temps en temps, on entende un autre son de cloche. C'est pour ça que j'ai demandé à Mgr Mollet de venir nous parler en tant qu'historien et en tant que témoin de cette période. Alors, Mgr, vous avez travaillé donc tout spécialement sur la question du rôle, de la présence et du rôle des prêtres et des religieux dans la résistance. La première question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. La résistance en France, elle a commencé avant même le 18 juin 40. Elle a commencé pratiquement avant même l'invasion allemande, puisque on sait que certains officiers qui avaient prévu la défaite française avaient également prévu ce qu'il faudrait faire en cas d'invasion et d'occupation. Et ma première question est la suivante. Est-ce que certains membres du clergé, eux aussi, dès le début, dès avant le lancement officiel, en quelque sorte, de la résistance, se sont engagés dans le combat contre l'occupant?
Bien, je puis dire que un certain nombre de membres du clergé avaient lu l'encyclique Mitbrennerzorge.
Alors, non, il faut rappeler que l'encyclique Mitbrennerzorge
du de la seconde quinzaine de 1930, de mars 1937, fait partie d'une trilogie. Il y a eu l'encyclique Mit van der Sorge, dénonçant les méfaits du nazisme, de l'athéisme nazi. Deuxièmement, il y a eu l'encyclique Divini Redemptoris, dénonçant l'athéisme marxiste, le communisme athée, et troisièmement, l'encyclique Firmissimam Constantiam, dans laquelle Pionze énonçait des règles de théologie morale sur la légitimité de la subversion. Il n'avait pas voulu donner ces règles dans les deux premières encycliques pour qu'on n'utilise pas l'une contre l'autre, et il a voulu la donner à propos de la persécution qui avait lieu au Mexique à cette époque-là. Et je puis dire que c'est dans l'encyclique Firmissimam Constantiam que le père Riquet a puisé la résolution de sa résistance. C'est le seul homme que j'ai rencontré qui m'ait dit le rôle important de cette encyclique. Il y a eu aussi pour lui un autre élément qui est antérieur à la guerre. C'est le fait qu'il avait été à Munich, dans la Jésuitière, et qu'on lui avait montré, en prenant du café, un des pères jésuites, et que le supérieur de la maison lui avait dit, lorsque le cardinal le lui demandera, il montera dans la chaire, et il sait que le soir même, il sera envoyé en déportation. Par conséquent, le contexte et le climat, un homme comme le père Riquet le savait, quelqu'un d'autre aussi le savait, il savait ce que c'était. C'était quelqu'un qui a passé deux ans avant la guerre à Berlin, c'est l'abbé René de Norroy. L'abbé René de Norroy n'ignorait pas la situation et il savait ce qu'était le régime nazi, la dénonciation, l'athéisme militant, les camps de concentration, il le savait, il savait l'existence du camp de Dachau, etc. Et c'est intéressant aussi parce que René de Norroy, lorsqu'il s'est retrouvé, je ne sais plus si à Pau ou à Bayonne, excusez-moi, on pourrait le retrouver.
Dans le sud-ouest.
Dans le sud-ouest, il était lieutenant à l'état-major. Et il a écrit à Monseigneur Saliège, il n'était pas cardinal à cette époque-là, en lui demandant la permission de partir à Londres. C'était en juin 40. Et le Monseigneur Saliège lui répond, je vous demande, quel que soit l'intérêt de la solution que vous préconisez, je vous demande de rester pour contribuer à sauver l'âme de la France qui est très malade. Alors René de Norroy a cherché comment faire. Il a eu l'occasion de rencontrer Dunoyer de Segonzac. Il est allé à l'école du Riage et il a fait un certain nombre de cours sur le nazisme, ne cachant rien. Mais même dans le cadre du Riage, dans lequel Dunoyer de Segonzac était très rigoureux pour ne pas laisser n'importe qui venir, il n'a pas pu rester plus de 7 mois. À Pâques 41, René de Norroy est obligé de quitter. Il était déclaré persona non grata à l'école des Carnots du Riage. Il savait ce qui se passait. Il y a d'ailleurs quelque chose que je puis dire, c'est que, ayant récemment eu l'occasion de déménager, j'ai retrouvé, comme ça nous arrive à tous quand il arrive quelque chose comme ça, des documents, et j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un numéro des études de novembre 38, si j'ai bonne mémoire, qui contenait un article de Robert Darcourt sur les difficultés qu'avait l'épiscopat allemand à cette époque-là. Par conséquent, je pense qu'il y avait un certain nombre de gens qui savaient ce qu'il en était. Je puis dire deuxièmement, pour ce qui s'agit de notre épiscopat, qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pu ignorer. Très vite, ils n'ont pas pu les ignorer. C'est que le 26 juillet L'archevêque de Paris a été enfermé dans son archevêché. Il est resté pendant 3 jours sans pouvoir même dire la messe. Et la chapelle de l'archevêché, le pauvre cardinal Suard, ne pouvait pas y accéder, baïonnette au canon, la chapelle était gardée avec une tête de mort qu'on avait mise sur la chapelle. On a emporté 2 camions d'archives de l'archevêché, et ça, les fouilles ont duré jusqu'au début de septembre. Le même jour, on a dans plusieurs évêchés de France, on a des fouilles du même genre, et on a trouvé aussi et chez le cardinal Baudrillard, on est allé à Reims, on est allé à Troyes, on est allé à Bordeaux même, il y a eu des fouilles à Lille aussi. On est allé chercher un certain nombre de fouillés, des perquisitions par l'armée allemande. Par conséquent, il ne pouvait se faire aucune illusion, et dans les papiers qui ont été pris chez le cardinal Suard, il y avait une lettre du cardinal Tisserand, que le cardinal Tisserand, elle se trouve à l'heure actuelle, par conséquent, le cardinal Tisserand, le 11 juin 40, écrivait au cardinal Suard qu'il ne s'agissait pas d'une guerre comme dans l'ancien temps. Le caractère idéologique de la guerre et de l'occupation requérait une réaction. Et le cardinal Tisserand, dans cette lettre du 11 juin 40, s'est trouvé dans le lot des archives qui ont été emportées de l'archevêché de Paris. Et la lettre est arrivée à Berlin. Berlin, on a fait une photographie de cette lettre du cardinal Suard au ministère des Affaires étrangères allemand. Et elle a été envoyée à l'ambassade de Berlin à Rome. Et la réponse, on a la réponse dans les archives, on a la réponse de l'ambassadeur de l'ambassadeur allemand à Rome, et qui répond: oh ben Tisserand, nous l'avons à l'œil, et il y a aussi un autre cardinal que nous avons aussi à l'œil. Par conséquent, il y a des gens qui savaient, il y a des gens qui ont agi, il y a des gens quelqu'un qui n'était pas en France en juin 40, qui n'y est rentré qu'en décembre, qui était en Europe centrale à cette époque-là, c'est le père Chaillet. Il est revenu par Beyrouth. Ses convictions étaient faites, n'est-ce pas? Et c'était pour le point de départ, ça a été incontestablement pour tous ces gens que j'évoque, c'est sur le plan de la résistance spirituelle que s'est située leur réponse. Ils n'étaient pas engagés dans l'armée. Alors l'armée arrivera tout de même assez rapidement, puisque un certain nombre d'aumôniers militaires, comme par exemple l'abbé Derry, qui était au Bon Conseil, au patronage du Bon Conseil à Paris, était aumônier militaire, et il n'a pas pris son parti du tout de l'armistice.
Alors, Monseigneur, pardon de vous, puisque vous évoquez l'armistice, pardon de vous couper, mais un auditeur justement nous dit, il faut arrêter de dire que la résistance a commencé le 18 juin 40, ce que je n'ai d'ailleurs pas dit, elle a, dit-il, commencé dès le début de la guerre, c'est-à-dire en août 39, par les combats des troupes françaises résistant à l'occupation allemande. Et dès ce moment-là, des prêtres nombreux en tant qu'aumôniers ont participé à la résistance. Oui. Donc, ça ne s'est pas arrêté pour eux avec l'armistice, et là vous nous parliez.
Non,
je vous rends la parole.
Oui, justement, mais ça, justement, c'est dans le vocabulaire actuel, n'est-ce pas? On parle beaucoup de la résistance en liaison avec comme la phase de la collaboration,
de la résistance à l'occupant.
Ce qui ne veut pas dire du tout, et justement, ce qu'on peut évoquer, c'est l'attitude à l'égard de l'Allemagne nazie, parce que on savait dans bien des cas, on savait quelle était la résistance du clergé.
Alors, Monseigneur, je regardais récemment un numéro d'une revue d'extrême gauche, prétendument catholique, qui s'appelle Goliath, et qui présentait toute une série de caricatures, de dessins, qui présentait d'abord un dossier, ou un prétendu dossier, pendant l'occupation, qui présentait toute une série de dessins
dans lesquelles les prêtres étaient affublés en lieu et place du crucifix de croix gammées. Les églises étaient décorées de croix gammées et non pas de crucifix, etc. Alors, c'est pas le dessinateur qui a inventé ça, ça fait partie d'une campagne qui consiste à dire que l'église, alors pas seulement l'église de France, mais en réalité, mais l'église romaine, était plutôt favorable au nazisme. Quel est là-dessus le résultat de vos recherches?
Qu'il y ait des exceptions, qu'il y ait, pour une caricature comme ça, je ne sais pas si Mayol Dulupé, par exemple, pourra donner matière à des choses de ce genre. Mais on ne peut pas dire certainement qu'un homme comme Pidouze, par exemple, il avait été nonce à Berlin, on ne peut pas l'ignorer, il savait ce que c'était, il avait l'encyclique Minbrennersorge, il en avait été pour une très large part l'inspirateur avec Pionz, enfin ils étaient tout à fait d'accord pour ça. Par conséquent, la connaissance du nazisme athée a été certainement une prise de conscience. Tout le monde ne l'a pas exprimé de la même manière, c'est parfaitement exact. Je n'ai d'ailleurs pas fait une enquête sur le clergé en général. Je me suis astreint à l'occasion, puisque c'est à cause de cela, je crois, qui vous a alerté. J'ai fait une conférence à propos du cinquantenaire du massacre des Oblats de Marie Immaculée à la Brosse Monceau. Alors, il y a eu effectivement cinq Oblats de Marie Immaculée qui ont été en juillet 44 massacrés à cause d'un parachutage d'armes qui avait eu lieu dans la propriété quelques heures ou quelques jours plus tôt. Bon, mais... Et alors, ne pouvant pas étreindre tout, car ce serait immense, et je ne me sens pas capable du tout d'en donner une vue absolument exhaustive du clergé. Ce que je peux dire, c'est que dans la question qui m'avait été posée, j'ai bien voulu accepter d'envisager le cas de... Je n'ai pas dit les prêtres, j'ai dit prêtres, religieux, religieuses. D'ailleurs, j'ai pas voulu exclure les religieuses, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais... Il y en a certaines qui ont joué un rôle admirable, prêtres, religieux, religieuses, dans la résistance. Et j'ai mis comme sous-titre pour ne pas risquer de faire de peine inutilement à qui que ce soit, et cette typologie. Je pense avoir fait effectivement un essai. Je ne dis pas du tout que j'ai pris des prototypes, mais j'ai pris des différents types de prêtres, religieux, religieuses, dans la résistance. C'est pas quelque chose d'exhaustif du tout, mais c'est des aspects, ce sont des aspects différents. J'évoquais tout à l'heure le point de départ spirituel de gens comme le père Riquet ou comme le père ou comme René Noroy, c'est incontestable. J'évoquais aussi à l'instant Roger Derry, parce qu'il était, c'est un autre aspect, c'est l'aspect militaire qu'il a, et il a dit au Bon Conseil, il disait, je sais que je serai fusillé.
Il n'a pas été fusillé d'ailleurs, il a été décapité.
Il a été décapité, oui. Mais c'était sa prophétie, qu'il concernait, oui.
n'était pas... Non, je voulais simplement souligner le...
Il était décapité. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il appartenait au réseau Saint-Jacques. Dès l'origine, il appartenait au réseau Saint-Jacques, qui avait trois pieds, un trépied, si on peut dire, à Paris. Il y avait la caserne de la République, il y avait le Bon Conseil, et il y avait la place, je ne sais plus, une place du 8e arrondissement, si j'ai bonne mémoire, la place Vendôme, je crois. Et alors, ils ont été trahis par le radio au mois d'avril 41, qui passait les messages à Londres, qui recevait les messages de Londres. Et alors, il y a eu une arrestation considérable, puisque je crois qu'il y en a eu 900 en quelques semaines, au cours de l'été 41. Et c'est comme ça que Roger Derry a été du nombre de ceux qui ont été arrêtés, avec un certain nombre de gens qu'il connaissait. Et alors, Et c'est pour eux, et c'est à cause de cette première rafle, que les Allemands ont appelé Porto, parce que c'est les noms aussi des listes, ils avaient, à la suite des dénonciations du radio, ils avaient trouvé, réussi par Portugal, des listes, c'est comme ça qu'ils en ont arrêté 900, dans quelques semaines, dans le second semestre 41. Et c'est à cause de cette arrestation qu'on a fabriqué la loi Nacht und Nebel, qui les a atteints rétrospectivement. Alors cette loi Nacht und Nebel montre que c'est ce qu'on appelle NN. En arrivant ici, j'ai vu que le général Delestrain était précisément Nacht und Nebel. C'est la question, c'est la réponse des... au fond, c'est une réponse à une clandestinité. L'action clandestinité des réseaux
entraînait une répression clandestine.
Une répression clandestine. Et la répression clandestine, c'était, on ne donnait pas de nouvelles. On disait qu'il était entré dans l'ennemi, le brouillard. Mmh. C'est pas ce que c'était. C'est au fond la clandestinité qui répondait à la clandestinité. Et justement, en particulier, cette clandestinité. Alors, il n'est pas, le réseau Saint-Jacques que j'évoque n'est pas le seul, puisqu'il y a un autre réseau, qui est le réseau Saint-Jacques, dans lequel il y avait la congénérie. Il y a eu, n'est-ce pas, à la même époque, on avait, ou un peu, quelques semaines près, le réseau Renard à Poitiers, qui s'est constitué, dans lequel se trouvait l'abbé Bonnin, se trouvait l'abbé Duret, se trouvait le père Aimé Lambert, un bénédictin de Ligugé. Et il y avait, à travers ça, ils avaient aussi des relations avec Londres. Mais il y avait quelque chose de, non seulement de paramilitaire, ou de, enfin, oui, c'est le renseignement qu'ils donnaient, ou de militaire même, mais il y avait aussi quelque chose de spirituel.
Et alors, sur ce plan, justement, vous démontrez que...
Je ne veux rien démontrer.
Enfin, vous démontrez. Vous exposez...
Je ne veux rien démontrer. Je ne suis d'ailleurs ni procureur, ni voyeur.
Vous exposez qu'il y a, en tout cas, dans les motivations des prêtres et des religieux engagés dans la résistance, une dimension spirituelle très forte. Et vous allez assez loin, puisque, prenant le contre-pied de tout ce qui se dit aujourd'hui, ou de tout ce qui se murmure, ce qui se murmure à grand bruit d'ailleurs dans les médias, vous dites non seulement, vous ne le dites pas de cette façon, mais enfin on comprend à vous entendre, que non seulement des prêtres en France n'ont pas été les complices de l'antisémitisme de l'occupant, mais que c'est cet antisémitisme déclaré qui les a engagés, eux, dans la résistance.
Ah, je crois que c'est absolument certain, dans un certain nombre de cas. Mais quelqu'un comme le père Riquet a très rapidement su que l'ordre était donné par le chef de l'État de lancer, le 1er octobre 40, la législation anti-juive. Le père Riquet l'a su très rapidement. Je ne sais pas exactement quand il l'a su, j'ai pas réussi à la dater, mais enfin il l'a su très rapidement. Quelqu'un s'est aperçu aussi, alors de la législation, la législation, tout le monde l'a su. Progressivement,
pas tout le monde quand même.
Non, mais
l'autre jour,
on pouvait le connaître.
L'autre jour, un monsieur tout à fait éminent expliquait que non, lui, il était pas con.
Oui, mais ça, on peut le connaître. Enfin, ça, mais je crois que celui à qui vous faites allusion n'était pas précisément en France, sur le territoire national à cette époque-là. Enfin, c'est pas, en tout cas, beaucoup de gens l'ont connu. Le père de Lubac, alors de son côté, a réagi très fort, tout de suite, en voyant cette persécution, cette discrimination qui risquait d'atteindre une persécution, d'avoir une dimension de persécution, puisqu'il a fait, dès avril 41, il a mis en forme un rapport qu'il a transmis à ses supérieurs, et leur disant que c'était la conscience chrétienne qui était en jeu, parce qu'on ne pouvait pas couper le christianisme de ses racines juives.
Alors évidemment, on trouvera plus tard dans la même ligne, on trouvera le frère de Charles Fleury, le président des Semaines sociales de France, n'est-ce pas, l'abbé Jean Fleury, qui, lui, pour Noël 42, je crois, a porté le petit Jésus à la crèche dans la messe de minuit, et il lui avait mis une étoile jaune. Et l'étoile jaune, il l'avait mis aussi à la Sainte Vierge, à Saint Joseph. Les Allemands qui étaient là n'ont rien osé dire à ce moment-là. Mais enfin, n'est-ce pas, cette réaction, elle s'est exprimée de manière très multiforme. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la loi du 3 juin 1941, il y a eu cette déclaration qui a existé, malgré ce qu'on a pu dire, de quatre théologiens de la faculté de théologie de Lyon, une protestation qui a soutenu qu'ils ont transmis au cardinal Gerlier, c'est de Lyon, ils l'ont retransmise lorsque le cardinal Gerlier, qui était absent de Lyon à ce moment-là, est rentré à Lyon le 16 ou 17 juin 1941. Il y avait quelque chose du même genre qui s'est fait à la même époque, à peu près spontanément, c'est le père Riguin qui a remis une note aussi au père, à Monseigneur Courbe. Et là, aussi bien de zones dites libres que de zones occupées, il y a eu cette convergence à l'Assemblée des cardinaux et archevêques de 1941, juillet 41, qui nous paraît dans le climat de liberté quelque chose qui est assez terne, mais en fait qui est paru si peu. Si peu
anodin
que le grand rabbin a demandé à Xavier Vallat, comment pouvez-vous dire catholique et faire la législation que vous faites, étant donné ce que disent vos évêques, et le cardinal aux archevêques. Et alors à ce moment-là, le chef de l'État a transmis à Léon Bérard, demander à Léon Bérard d'appuyer sa politique, il lui a répondu, et lorsqu'en septembre 41, à l'hôtel du Parc, le nonce Valerio Valéry a dit: Monsieur le maréchal, vous allez tomber un peu fort avec votre législation anti-juive. Oh, monsieur le nonce, j'ai pris mes appuis, j'ai toute ma... Oh, monsieur le maréchal, je voudrais bien voir de quoi il s'agit. Oh, mais ils ont pris rendez-vous. Le nonce, il l'a mis installé dans un cabinet pour qu'il puisse copier le rapport Bérard. Valerio Valéry a envoyé le rapport Bérard, une copie du rapport Bérard à la secrétaire d'État, et le cardinal Maglione lui a dit qu'il avait parfaitement eu raison, il lui a donné son aval. Par conséquent, la petite histoire, n'est-ce pas, sur laquelle on discute pour savoir combien il y a eu de tracts des théologiens de Lyon qui ont pu être distribués, elle a tout de même eu ces suites-là jusque, j'ai compris, c'est un pacte à Vichy et à Rome.
Alors, un des arguments de ceux qui prétendent que le clergé était très majoritairement collaborationniste et quasi unanimement collaborationniste, porte sur les évêques de France. L'argument étant que, d'une façon quasi unanime, les évêques ont apporté leur soutien à la politique de collaboration.
Je puis vous dire d'abord qu'il faudrait distinguer entre la collaboration, hein, qui était une trahison, et le respect ou le loyalisme sans inféodation à l'égard du régime de Vichy. Ce qui est tout de même une distinction. Et qu'un certain nombre d'évêques, il peut y avoir quelque chose. Cependant, j'ai justement ici une réaction, pas d'importe qui, du secrétaire de l'Assemblée des cardinaux et archevêques, Mgr Chollet. du 10 janvier 1941. Le cardinal Gerlier lui avait transmis, et le pauvre Mgr Chollet, qui était originaire de Cambrai, archevêque de Cambrai, n'avait pas pu rentrer, puisque c'était la zone interdite, il n'avait pas pu rentrer à Cambrai. Alors, il était donc à Vénissieux. Le cardinal Gerlier recevait une note du maréchal Pétain, et il lui a dit, demandé à Mgr Chollet d'étudier cette note. Il s'agissait de ce qui devait paraître au fond les principes de la communauté. Et Mgr Chollet, secrétaire de l'Assemblée des cardinaux et archevêques, dans sa note, a diagnostiqué dans le projet du maréchal Pétain le germe des ravages de la législation à venir. Il écrivait « Cela, écrivait-il, ouvre la voie à un terrible massacre des innocents, à la légitimité des avortements et des suppressions d'enfants, etc. » C'était la note du 18 janvier 1941. Cette note a été transmise par Mgr Valerio Valeri au Vatican.
C'est la fameuse note de Léon Bérard, c'est ça?
Non, c'est autre chose. C'est autre chose, ça c'est janvier 41. C'était objet même d'une note. Non, c'est pour voir l'attitude, puisque ça, c'est pour vous me parler de l'attitude des évêques. Pour montrer que dès janvier 41, le secrétaire de l'Assemblée des cardinaux et archevêques diagnostique dans un projet du maréchal Pétain. Il y voit, ça ouvre la voie à un terrible massacre des innocents, à la légitimité des avortements et des suppressions d'enfants. Or, ce document, avec l'aval, la réponse de Pie XII qui donne son aval, ce document et la réponse de Pie XII se trouvent dans les actes et documents du Saint-Siège pendant la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, toute notre intelligentsia peut parfaitement le voir. Je l'ai trouvé là. J'ai pas eu d'accès particulier à des dossiers spéciaux ou particuliers, n'est-ce pas? Et ça se trouve, c'est dès janvier 41. Après ça, c'était la note que j'évoquais du père de Lubac, c'est d'avril 41. Après ça, c'est ça que je disais, la note qui a été transmise, c'est de juillet de l'Assemblée cardinale des archevêques, la réaction de Xavier Vallat, du chef de l'État, Léon Bérard, c'est en septembre 41. Par conséquent, il serait certainement unique. Qui est-tu l'un ou l'autre évêque qui est-tu des paroles un peu flagornerie à l'égard du maréchal Pétain? Bon, je pense que c'est incontestable, mais c'est vrai. Mais ça n'est pas pour le nazisme du tout. La persécution des juifs, n'est-ce pas? Dès 40. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas toujours, c'est que il y a eu Montoire 22 et 24 octobre 40, puisque le 23 octobre, Hitler est descendu à Hendaye pour rencontrer Franco. Il voulait obtenir la liberté sur la Méditerranée, il avait l'Italie, il voulait avoir l'Espagne, là il s'est heurté sur une difficulté avec l'Espagne. Par ailleurs, il aurait voulu aussi le canal de Suez, mais la Grande-Bretagne marquait des il n'arrivait pas, il se cassait les dents. Alors, mais il y avait quelque chose, c'est que avant la rencontre de Pétain-Hitler à Montoire, il y avait un train de juifs allemands, de 9 trains de juifs allemands qui attendaient à la ligne de démarcation. Et lorsque la poignée de main de Montoire a été donnée, on les a transférés dans les camps du sud-ouest, dans des camps d'internement du sud-ouest. Le projet, c'était de les envoyer à Madagascar, de faire un immense ghetto à Madagascar. Enfin, Hitler s'était cassé les dents sur l'Espagne et sur la Grande-Bretagne, ce qui fait que ça n'aboutira pas, et en février 41, il y renoncera en disant qu'il y aura une autre solution qu'il faudra trouver et qui n'est pas plus avantageux. Et alors, là-dessus, qui est-ce qui s'est occupé des gens du Sud-Ouest? Ben, ça a été l'abbé Glasberg qui était d'origine juive, qui était à Lyon, qui a aussitôt alerté le cardinal Gerlier sur la situation des juifs des juifs qui étaient internés, des juifs, de tous les juifs d'ailleurs étrangers qui étaient dans les camps d'internement. Et à qui est-ce qu'on a porté l'antienne aussi? Au cardinal Gerlier par Glasberg, mais du côté de Toulouse, ça a été auprès de Mgr Saliège, qui est aussitôt, et auprès de qui est-ce qu'on a porté l'antienne encore? On a porté l'antienne aussi auprès de Pie XII, en particulier, il y a eu le père Arnoux qui est allé, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais qu'on trouve aussi dans les actes et documents du Saint-Siège pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit deux dons importants qui ont été faits en août 41 et en mars 42 de Pie XII pour tous les internés juifs étrangers des camps du Sud-Ouest.
Alors, Mgr Mollet, comment expliquez-vous, parce que ce que vous dites, vous précisez bien que c'est dans les actes du Saint-Siège, et que c'est à la portée du premier historien venu...
Qui sait lire,
voilà, il suffit de savoir lire...
Et c'est en français. Pas tout, mais ça... C'est
savoir lire la langue française pour découvrir ces choses-là, enfin, pour les savoir. Alors, comment expliquez-vous le formidable mensonge qui s'installe aujourd'hui sur le rôle de l'épiscopat français et le rôle de l'Église de France et le rôle des prêtres de France par rapport à cette période, c'est-à-dire qu'ils sont accusés d'avoir été les complices actifs, dynamiques et enjoués de la politique de persécution antisémitique. D'où vient ce mensonge? Comment peut-il tenir debout?
Ah bon, moi j'avoue que je ne sais pas, et je ne suis ni procureur ni voyeur, je vous disais. Par conséquent, je peux l'enregistrer comme vous. Je peux l'enregistrer. Mon propos n'est d'ailleurs pas de perdre mon temps à essayer de discuter cela. J'énonce les faits, je vous le disais.
Pardon de vous couper, mais ce que vous nous disiez, ce que vous venez de nous expliquer, en fait, c'est beaucoup d'interventions, beaucoup de discours, beaucoup de lettres, beaucoup d'actions, mais est-ce qu'il y a eu des prêtres qui sont morts dans ce combat?
Ah, dans ce combat, à ce moment-là, en 1940-41, pas encore, je ne pense pas. Il y en a qui ont été internés, qui ont été arrêtés. Et des gens qui ont été arrêtés, je vous parlais de Derry qui a été arrêté dès 41.
Oui, lui,
et
a puis été il a décapité à la hache.
Mais en 43. Et là, oui, justement. Les martyrs, ça sera les gens qu'on peut considérer, dont certains peut-être, on peut considérer comme martyrs, c'est en 43, surtout 44 et 45. Le grand mois des morts, c'est 44-45. C'est avril 45. C'est avril 45. La liquidation de tous les déportés a été décidée par Himmler. Ça, nous le savons. Mais alors là, c'est dans la. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas évoqué à l'instant. Je l'avais évoqué au début, mais c'est tout le rôle des religieuses. Les religieuses innombrables et qui ont rendu service. Les religieuses, vous me direz peut-être que ça répond peut-être à la question que vous posiez à l'instant. J'ai vu dans un rapport d'une congrégation religieuse qui a rendu d'immenses services. On lui demandait, mais qu'est-ce que c'est que vous avez... On n'avait peut-être pas de formation politique, mais on avait la formation du cœur. Alors, n'est-ce pas, on ne pouvait pas laisser des juifs avoir faim ou avoir soif. On tâchait de les nourrir, on tâchait de les cacher. Une congrégation, que je ne nommerai pas parce qu'elle ne veut pas qu'on le dise, mais elle avait plusieurs entrées, elle avait des passages souterrains qui étaient utiles pour ne pas se faire voir quand on allait chercher les pommes dans le verger. Bon, mais ces souterrains, ils ont servi. Et je vous en donne pas le plan parce que si vous le publiez, me disait l'archiviste de la congrégation après avoir consulté sa congrégation, ça pourrait empêcher qu'on puisse s'en servir dans d'autres circonstances. N'est-ce pas? Par conséquent, les religieuses. Je pourrais donner l'exemple de telle religieuse qui a fait passer dans son hôpital, évader 800 soldats, 800 prisonniers qui étaient en Alsace-Lorraine. Le rôle dans l'Alsace-Lorraine est considérable. Les passeurs, les presbytères de la Haute-Savoie, il y en a un grand nombre qui ont servi, qui étaient des lieux de passage. Dans l'Ain, c'est la même chose. Et puis alors, les frontières de l'Espagne, c'est la autre chose, c'est la fuite, le départ pour la Grande-Bretagne, qui se passait par l'Espagne. Alors, et là-dedans, il y a eu beaucoup de filières de juifs. Et ça, vous me permettrez d'évoquer quelque chose. C'est que lorsqu'on parle du sauvetage des juifs, on sait que, quelquefois, l'État d'Israël a institué une médaille des justes parmi les nations, la médaille Yad Vashem, pour les non-juifs qui, en Europe occidentale, ont au péril de leur vie sauvé des juifs. Et on sait, quelquefois, quand on pousse un peu les investigations, on sait qu'il y a quelques 5000 juifs, médailles, qui ont été attribuées pour l'Europe occidentale. En France, il y en a un peu plus d'un millier. Mais ce qu'on ne fait pas comme compte, c'est que sur le millier, il y en a 85 qui ont été attribués à des cardinaux, je dis bien cardinaux, j'expliquerai pourquoi après, évêques, prêtres, religieux, religieuses. C'est-à-dire, si on fait le compte du nombre de cette époque-là, de ce qu'on peut appeler les permanents de l'Église catholique, prêtres, religieux, religieuses, tout compris, ça faisait en gros 200 000 Français adultes. Ce qui fait que 85 sur 200 000, ça représente du 4,25%. Tandis que pour le reste des Français, même si on arrive au millier, il n'y a pas tout à fait le millier, mais enfin, on peut compter 1000, sur 20 millions d'adultes de l'époque, ça fait du 1/20 millième, pour tous les corps sociaux réunis. Je veux bien, mais si on regarde les chiffres, on arrive à ça. Alors, je parle des cardinaux. On me dit, mais il n'y a pas de cardinaux. Oh. D'abord, vous faites allusion à Saliège, mais il n'était pas cardinal à cette époque-là. Non, c'est vrai, il n'était pas cardinal. Mais Saliège a été cardinal quand il l'a reçu. Par conséquent, il l'a reçu étant cardinal. Il a toute sa résistance, on le sait. Mais il y a quelqu'un d'autre, et il a eu le numéro 197. Il y a quelqu'un d'autre, un autre cardinal, c'est le cardinal Gerlier, qui a le numéro 1769, et qui a tout un dossier qui est très substantiel pour l'attitude qu'il a eue à l'égard des Juifs et pour les Juifs qu'il a sauvés. Enfin, ce sont des faits qu'on peut s'exclamer pour dire c'est pas possible. Moi, je veux bien, on peut dire ça, mais le réel est plus fort que les possibilités.
Alors, je crois qu'il y a un chiffre sur lequel on peut, je dirais pas conclure, parce qu'on ne conclut pas ce genre de sujet, mais sur lequel on peut conclure au moins notre entretien de ce soir, c'est celui qui était avancé par le père Riquet, du nombre de prêtres qui sont morts en déportation, du nombre de prêtres français qui sont morts en déportation.
Mais il y en a des prêtres morts en déportation. Il y en a certainement plus de 200. Certainement.
Le révérend père Riquet disait 600.
Non, 600 qui ont été déportés.
Déportés.
Ils ne sont pas tous morts. Il y en a 600 qui ont été déportés. Le père Riquet. Alors, le chiffre du père Riquet, d'ailleurs, 600, est inférieur à la réalité, certainement. Alors, 200, c'est certainement. Je suis arrivé à 200. Presque 250. Mais je n'ai pas du tout la prétention d'avoir fait quelque chose d'exhaustif. Et puis, il faudrait savoir aussi dans quelle mesure on me demandait hier aussi quelque chose au sujet d'un prêtre qui est mort, mais on n'arrive pas à savoir, avoir de renseignements sur un prêtre qui est mort à Nice, qui a été fusillé à Nice, qui a fait partie d'un lot de 22 fusillés à Nice le 15 août 1944. Mais on n'a pas d'autres renseignements que de savoir qu'il a été aumônier de la marine. C'est très, très, dans certains cas, c'est très difficile. D'autant plus qu'on ne peut pas interroger les morts. On peut interroger les survivants. Et les survivants, même les gens qui sont... même des gens qui ont livré des Français qui ont livré des Français. Et si, puisque vous me dites qu'il faut envisager la fin de l'émission, eh bien, j'évoquerai, si vous voulez, parmi ces morts, je pense qu'on peut compter, prêtres, une dizaine de prêtres dont on est absolument certain qu'ils sont martyrs. La cause de béatification fait partie d'une cause de béatification plus générale des gens qui ont été victimes d'un décret de persécution explicitement contre les Français. Et on a parlé pour les prêtres qui sont morts des différentes formes de résistance. On avait publié un ouvrage il y a quelques années intitulé « Ces prêtres qui ont su mourir ». Et c'est quelque chose qui est notable. Deux choses me semblent notables. J'évoquais à l'instant l'aide aux Juifs. C'est un fait massif de la part du clergé français et des religieuses. Mais je voudrais me permettre de donner deux choses pour terminer. Dans le camp de Buchenwald, le père Leloir, qui était un de ceux qui étaient là avec le père Till, prémontré tchèque qui vient de mourir, ils avaient comme perspective pour dire la messe. Ça n'était pas seulement de dire la messe pour pouvoir communier leurs frères, cela ils ne l'excluaient pas, mais le père Leloir, explicitement celui dont on sait qu'il avait écrit tout ça en vers pour se retenir tout ce qu'il avait vu, avec 5 gouttes recueillies à la pipette, débris d'une quelques gouttes de vin, débris d'un réservoir, il importait peut-être moins d'introduire l'Eucharistie au bagne que d'offrir ce sacrifice partout, du levant au couchant, comme le prophétisait Malachi. L'accomplissement de la prophétie de Malachi. Vous me direz que c'est une forme de résistance à l'athéisme, c'est incontestable. Il est d'ailleurs remarquable, remarquable au sens de... c'est à noter. Le nombre de... Dans tous les postes de police d'Allemagne, on avait, en 44, on avait les consigne de cardinal Suard au sujet des prêtres qui étaient en Allemagne. Elles étaient dans tous les postes de police. Tous les gens qui ont comparu devant la police ont été interrogés sur le cardinal Suard, sur Münchner Sorge. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Pierre de Porcaro. Il était vicaire à Saint-Germain-en-Laye. Et il était parti, ayant été prisonnier. Il avait honte de ça, mais son évêque lui avait dit, écoutez, la misère des jeunes Français qui sont en Allemagne, est-ce que vous ne pourriez pas accepter de repartir pour aller leur rendre service? Il a mené une action extraordinaire d'apostolat dans la région de Dresde. Et s'il a choisi Dresde, c'est parce que son frère Yves était prisonnier et aussi dans la région de Dresde. Par conséquent, il le voyait de temps en temps. Il a su, et il a entendu dès octobre 43. Il le note dans une lettre qui est passée clandestinement. Il dit qu'il était visé par la structure française des travailleurs en Allemagne et en même temps que par la Gestapo. Le curé de Dresde lui disait, écoutez, je vous admire, mais... Bon, effectivement, il a été saisi. Il avait dit à son frère Yves, tu sais, il est inévitable que je sois saisi et emmené à la Gestapo. je sais par qui je suis livré, mais je te promets, je te demande de me promettre de ne jamais révéler le nom de celui qui m'aura livré. Pierre de Porcaro effectivement fut livré, il est mort, et son frère Yves est rentré, était prisonnier, il est rentré, et il a raconté qu'il est passé dans le métro un soir, un jour, et dans le même wagon, il a vu celui qui avait livré son frère, et il a dit à ce sujet, je l'ai vu, je l'ai reconnu, nous nous sommes reconnus, nous ne nous sommes rien dit, je suis descendu à la station suivante, mais jamais je ne manquerai à la promesse que j'ai faite à Pierre.
Monseigneur Mollet, je vous remercie pour ce témoignage extraordinaire. Alors, beaucoup d'appels nous demandent si votre travail est publié ou va être publié sous une forme quelconque dans un délai proche.
Oui, je pense que ça va être publié dans un délai proche. Il y a déjà quelque chose qui a été publié de moi, c'est sous le titre « En haine de l'Évangile », quelque chose sur les martyrs. Mm-hmm. Ces martyrs qui sont partis volontaires
aux éditions...
Aux éditions Fayard. Alors là, je me suis limité à cette persécution, c'est les victimes du décret de persécution nazie du 3 décembre 43. Alors là, on a le texte du décret, on a le nom de tous ceux qui sont là-dedans. Je ne l'ai pas fait sous forme d'un dossier pour la Congrégation pour les causes des saints, mais j'ai fait sous la forme d'une page d'histoire uniquement. Et je veux me limiter à cette question d'histoire, même si ça peut servir à la cause des saints. C'est autre chose, c'est un autre problème. C'est pas sous le même angle, c'est sous le problème de la page d'histoire.
Merci, Monseigneur. Beaucoup d'appels pour dire, vous apporter des remerciements chaleureux pour avoir rappelé le martyr des religieux et des prêtres fusillés à la Brosse-Monceau, parce qu'ils avaient fait de la résistance. Et puis, beaucoup d'appels aussi pour nous rappeler le souvenir de prêtres tombés dans cette époque, l'abbé François Basset, chanoine Laporte, le père Klein, etc., etc. Oui. Et puis l'abbé Derry, dont on nous parle beaucoup dans les...
Dont je viens de parler aussi.
Avez parlé également.
Oui, François Basset, pas le centre Richelieu, mais il a précédé le centre Richelieu, il était l'aumônier de la Sorbonne à cette époque-là.
Et puis un auditeur nous conseille la lecture du livre du pasteur Marc Bögner, dont les carnets de guerre ont été publiés par son fils, et qui restitue très bien, nous dit cet auditeur, l'attitude de l'Église catholique de France pendant la dernière guerre, et notamment les démarches que lui-même et le cardinal Gerlier de Lyon, que le cardinal Suard ont faites auprès des différents gouvernements du maréchal Pétain en faveur des Juifs. Bögner, dit cet auditeur, rend dans son livre la vérité. Ce que vous faites également, vous participez à cette vérité qui aujourd'hui est bien combattue par un révisionnisme auquel on ne s'attendrait pas forcément. Non. Merci, Monseigneur Mollet. Et puis, à bientôt, j'espère, pour la publication du livre qui naîtra certainement de vos travaux.
Diable libre d'orgueil, choisi dans sa grande chaudière, ses démons avaient la mauvaise oeil, il les envoya sur la terre, mais le bon Dieu, notre protecteur, dès qu'il l'a pris, créa tout de suite des anges qui portaient bonheur chez nous, les envoya bien vite.
paradis, sont des mascottes, mes amis. Rue celui que le ciel donne, une mascotte. Ces envoyés du paradis sont des mascottes. Celui que le ciel donne une mascotte.
Nous reprenons l'antenne, enfin que nous n'avons d'ailleurs pas perdu, pour saluer le départ de Mgr Mollet et pour donner la parole, non pas à Mgr, mais à Maître Georges-Paul Wagner, qui va nous expliquer, à l'occasion, comme on le fait à peu près tous les ans, de la réouverture des travaux de l'Institut National de Formation, quelles sont les ambitions de cet institut, puisque nos auditeurs sont certainement intéressés à le savoir, et puis
oui.
Ensuite on demandera... quel en est le programme ?
En effet, chaque année à peu près, vous avez l'amabilité de m'inviter. J'ai peut-être plutôt l'audace de m'inviter moi-même auprès de vous pour vous exposer en effet le cycle qui est le septième des conférences du soir de l'Institut de formation nationale. Alors c'est un institut qui a commencé assez petitement, qui a commencé, je dirais, de façon presque artisanale, et puis qui s'est développé d'abord à Paris, puisque désormais il rassemble un auditoire assez important, chaque quinzaine à peu près, et qui s'est développé d'autre part en France, puisque il rayonne et que désormais il y a un institut, enfin des conférences du soir de l'institut à Lille, à Bordeaux, à Strasbourg, à Aix, à Marseille, à Toulon, à Nice, et par conséquent à Paris. D'ailleurs, ce soir, dans une heure, nous avons une conférence qui sera la seconde de ce cycle, qui nous est donnée par Bernard Anthony. Sur le sujet qui est le sujet de cette année, c'est-à-dire la France et la géopolitique. Le terme de géopolitique est un terme curieux, d'ailleurs, qui est assez employé depuis quelques années, mais qui a été banni, semble-t-il, de la circulation pendant longtemps, car vous pouvez le chercher dans les dictionnaires et vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas ce mot dans les dictionnaires. Il paraît qu'il a eu autrefois un usage particulier sous l'occupation et que, par conséquent, il a souffert d'une sorte d'indignité nationale. Et c'est assez frappant de voir que on ne trouve nulle part sa définition. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit quelque chose de tellement nouveau après tout, parce que c'est la recherche des données historiques, des données géographiques de la politique étrangère, et par conséquent, cette année, nos conférences vont se tourner vers l'extérieur après avoir longtemps tenté de chercher des solutions et des formules de pensée sur la France, sur la nation, sur les rapports entre l'État et la nation. Cette année, nous nous tournons vers l'extérieur et nous voulons parler un peu des relations de la France, au milieu des peuples. C'est d'ailleurs le sujet de conférence, de brillante conférence qui nous a été donnée, la première, par Jean-Marie Le Pen, le 15 septembre dernier.
Est-ce qu'on peut dire que l'Institut National de Formation est une sorte d'université d'été qui durerait toute l'année ?
Oui, exactement. D'ailleurs, l'université d'été est une émanation de l'Institut de Formation Nationale. Et au fond, c'est vrai, on s'efforce toute l'année de continuer un peu ce travail de l'université d'été que vous connaissez, puisque vous y êtes et même... Je vous ai vu et je vous ai entendu y participer.
Oui, il y a 2 ans. Je crois que, étant donné ce qui s'était passé, ça risque de ne pas se reproduire avant une vingtaine d'années.
Non, vous êtes trop pessimiste. C'est vrai, c'est exactement ceci, c'est-à-dire c'est le souhait d'apporter formation et information, et information précise et de qualité, je puis dire, à ceux qui, militants ou sympathisants de la cause nationale souhaitent avoir des informations plus complètes, pouvoir répondre à ceux qui les contredisent ou qui les contrarient, et puis avoir plus généralement une culture qui soit prise aux meilleures sources et qui s'accompagne souvent de qui sont données par des hommes de qualité.
Quelle est la clientèle entre guillemets?
Alors la
quel est son âge, quel est son...
La clientèle est très diverse. Je dois dire que je souhaiterais qu'elle soit composée d'un plus grand nombre de jeunes. Dans ma jeunesse, je me suis occupé aussi de l'Institut de politique nationale, de l'Action française, l'Institut d'Action française. Et c'était un institut qui d'ailleurs avait lieu dans la même salle, cette salle de la rue Lascazes, du musée social. Musée social, c'est d'ailleurs un peu dommage.
Comme c'est un joli nom, quand même.
C'est un joli nom, oui. Mais enfin, musée, ça fait quand même un peu peut-être trop poussière, vieillot. C'est ça qui est amusant. Ben, nous sommes là, justement, pour enlever la poussière, pour secouer les chiffons et pour révéler les choses dans leur réalité brillante. Dans cette salle, nous avons moins de jeunes que de personnes d'âge moyen, n'est-ce pas, ceux qui sont dans la force de l'âge, et puis nous avons aussi, il faut bien le dire, des gens du troisième âge, nous avons des retraités, des gens qui ont des loisirs et qui utilisent ces loisirs, comme c'est de plus en plus l'usage des retraités, le bon usage, je crois, à se former, à s'informer, à reprendre leurs études, en sorte.
Maître, il est 19h30, nous faisons le basculement de cassette, et oui. Je vous interroge encore une minute, si vous le permettez.
Bien sûr.
Maître Georges-Paul Wagner, ne perdons pas de temps, pour, comme vous devez partir, pour vous poser une dernière question sur l'Institut National de Formation. Qui décide des sujets? Quelle est l'autorité obscure, occulte qui...
Non, c'est pas une autorité obscure, c'est une concertation. C'est une concertation qui se fait autour d'une table ronde, et d'ailleurs une table sur laquelle sont servis des mets, n'est-ce pas? Ça permet parfois d'arrondir les angles, n'est-ce pas? Et par conséquent, c'est une concertation qui intervient entre Bruno Maigret, Bernard Anthony, Françoise Monestier, moi-même, et puis un certain nombre d'autres participants qui chacun apportent leurs idées de conférence et leur nom de conférencier, et puis on organise tout cela ensemble. Il n'y a pas de mystère et il n'y a pas d'autorité obscure qui se cache derrière cet institut qui s'efforce au contraire de cheminer vers la clarté.
Merci, Maître Georges-Paul Wagner. Je vais maintenant me tourner vers notre excellente camarade Françoise Moneste.
Bonsoir.
Je l'appelle comme ça depuis 20 ans, on peut continuer.
25
ans, on était en maternelle ensemble pratiquement. Françoise, quel est le programme des réjouissances à venir?
Alors, le programme des réjouissances à venir, le 28 septembre, donc Bernard Anthony, le 12 octobre, notre ami Bruno Racouchot sur le sujet suivant, thalassocratie et puissance continentale.
Il aime bien ce genre de mots, Bruno.
Ah, il aime bien ça.
Thalassocratie,
oui.
C'est l'empire des mers.
C'est l'empire des mers, oui. C'est la domination des mers.
Voilà, la domination des mers.
Des mers, M-E-R-S, n'est-ce pas? C'est pas la domination des...
Oui,
c'est pas le matriarcat.
le 9 novembre, idéologie et politique, quel avenir pour l'ex-Union soviétique, par Hugues Petit. Le 23 novembre... Alors, nous ne parlerons pas de géopolitique, mais cette année, nous aurons trois témoignages, un de François Brignot, un de Jean Madiran, un de Jacques Robichez, sur le thème des Français parlent au français.
Ensemble?
Non. Alors, le 23 novembre, François Brignot, et le 3 mai, Jean Madiran, et le 8 mars, Jacques Robichez. Le 7 décembre, Damien Barillet, les grandes constantes de la géopolitique. Le 11 janvier, Yvan Blot, intégration ou alliance des nations en Europe. On n'aura pas de baroque cette fois-ci.
Il ne peut pas y avoir du baroque.
Le 25 janvier, notre ami Georges-Paul Wagner, la France et les sœurs latines. Le 8 février, nouvel ordre mondial, la démesure américaine avec Pierre Vial. Le 8 mars, le témoignage donc de Jacques Robichez. Le 22 mars, nous irons en Asie avec Bruno Gollnisch sur le thème « L'Asie et les enjeux du XXIe siècle ». Le 5 avril, pour une coopération différente avec l'Afrique par François-Xavier Sidos. Le 17 mai, l'Allemagne et la nouvelle donne en Europe centrale par Jean-Paul Allard. Le 14 juin, Martin Pelletier nous parlera du mythe ou de la réalité de l'espace francophone. Et enfin, nous clôturerons le 28 juin avec Bruno Maigret sur le thème « Quels principes de géopolitique pour la France ?»
Et donc, la prochaine, j'allais dire la prochaine tenue, ce qui vraiment n'aurait eu l'agrément de maître Georges-Paul Wagner.
Oui, je vais être forcé, sinon je serais forcé de vous appeler mon frère.
Ben oui, ça va se compliquer alors. Donc la prochaine planche tracée...
C'est ce soir, tout à l'heure, dans trois quarts d'heure, avec Bernard Anthony, rue Lascazes, à la salle du musée social, 5 rue Lascazes.
Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir en coup de vent. Et maintenant, je comprends pourquoi je trouve que tous les ans, Françoise fait des progrès, elle devient de plus en plus intellectuelle. Et c'est tout simplement parce qu'elle est abonnée aux travaux de l'Institut National de Formation et au Libre Journal, bien entendu.
Une auditrice nous demandait de nous parler des BBR parce qu'elle était à l'étranger, qu'elle n'a pas eu d'écho. Vous ne pouvez pas y revenir deux petites secondes, là?
Sinon, pour dire que c'était, à mon avis, fort sympathique, que c'était très fréquenté. En outre, l'expérience que j'ai faite et qu'il confirme, c'est qu'à l'heure du déjeuner, le midi, il était impossible, si on n'avait pas retenu sa place, de pouvoir s'asseoir quelque part pour déjeuner.
Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait des restaurants.
Et Dieu sait qu'il y avait des restaurants en tous sens et en tout genre. Je crois que c'est un exemple, si vous voulez, parmi les autres, du succès, reconnu d'ailleurs par à peu près toute la presse, et Dieu sait qu'ils y ont eu un certain mérite, de cette manifestation.
Voilà. Rassurez-moi, Jean-Marie Le Pen a bien un programme. Puisqu'il est candidat à la présidence de la République.
Oui.
J'ai entendu Philippe Alexandre l'autre matin à Luxembourg qui disait qu'il n'avait pas de programme.
Oui, mais
il faudrait peut-être que M. Philippe Alexandre apprenne à lire. Moi, quand je l'entends dans l'émission de Jean Ferré, je le trouve toujours intelligent. Quand je l'entends sur Radio Luxembourg, en général, je le trouve assez intelligent. Mais c'est un homme étrange. Il fait partie de ces gens qui semblent normaux, normalement intelligents, quel que soit le sujet qu'ils évoquent, sauf quand il s'agit de Le Pen, où là, tout simplement, ils disjonctent. Et il commence à dire n'importe quoi. Il y a Duhamel qui est comme ça aussi.
Oui. D'ailleurs, ce soir, je lisais dans le Monde un sondage qui avait été fait sur les différents candidats possibles à la présidence de la République. Tout le monde était cité, tout le monde était nommé, sauf Jean-Marie. Alors, il n'a pas de programme et même bientôt un bras qui n'existe pas.
Voilà, on allait se demander est-ce qu'il existe. Voilà. Merci, maître.
Bonsoir.
Et bon courage pour ce soir. Avant que vous ne partiez, plusieurs auditeurs téléphonent en disant « Mais si, le mot géopolitique est en page 895 du tome 4 du Grand Robert ?» Et un autre auditeur nous dit « Le mot géopolitique est dans le grand dictionnaire encyclopédique Larousse. La définition étant « science qui étudie les rapports entre les données de la géographie ».
Alors, mea culpa, il n'est pas dans mes dictionnaires, mais je ne suis pas à jour, vous voyez. Alors, je vais sur ce point me réformer.
Voilà. Nous prenons Marc Dem, mais avant les messages, parce que je crois qu'il y en a énormément.
Je croule sous les messages, je ne sais plus où les mettre. Alors, votre déclaration du début a amené énormément de réactions.
La déclaration liminaire.
Nous sommes de tout cœur avec vous pour la défense de la vie, car notre Dieu est le Dieu de la vie, et ses adversaires sont les suppôts de la mort. Bon courage, on les aura. Surtout que Serge
On les a déjà, d'ailleurs.
Surtout que Serge de Bécache ne se laisse pas aller au découragement. Nous avons besoin de lui. Ne vous laissez pas impressionner par la provocation et continuez vos émissions, on vous attend. Je ne suis pas toujours d'accord avec Serge de Bekech, mais cette fois, pour sa position sur l'avortement, un seul mot, chapeau. Tous les messages ignobles que vous recevez émanent de Satan, mais nous sommes plusieurs à être avec Saint-Michel.
J'aimerais bien qu'il arrête de m'écrire celui-là, tiens.
Soutien complet à Serge de Bekech. Il n'y a pas que de mauvais auditeurs, il y en a de bons. Que M. Bekech ne s'énerve pas, qu'il se rappelle que la bêtise humaine, à elle seule, peut donner une idée de l'infini. Il y a beaucoup d'auditeurs dont je fais partie qui attendent son émission. Merci de vos propos sur l'avortement de la part d'une mère de 3 enfants adoptifs qui ne serait, si la loi Veil avait sévi plus tôt, plus que des cendres dans un incinérateur d'hôpital. Tout ce que vous avez dit est de bon sens. L'avortement est seulement pour les Français et non pour les immigrés, qui ont beaucoup de gosses. Et vous, vous êtes l'homme le plus intelligent de France.
Oui, je crois ça aussi. Oui.
Surtout, ne changez rien. Des milliers de gens vous soutiennent, certainement, même s'ils restent silencieux. N'arrêtez surtout pas l'émission qui fait notre bonheur. Votre position sur la surpopulation et l'avortement est la seule défendable. Votre émission est la meilleure de Radio Courtoisie par ses positions. Ah,
sur ce plan-là.
Merci, attendez, pour votre émission, car nous sommes un groupe de jeunes. Et vous êtes, pour nous, un soutien permanent.
Ben, ça me fait très plaisir.
Et alors, quelqu'un avec qui je suis tout à fait d'accord, Serge de Beketch ne devrait pas lire les messages non signés. Ce sont des messages que nous ne qualifierons pas. Voilà, ça c'est pour votre déclaration liminaire. Alors maintenant, il y a Roger Olyndre et sa déclaration à lui. Il faut organiser une grande manifestation, dit un auditeur, car il faut qu'on nous voie et qu'on nous entende, et non pas être enfermé dans un vase clos où on ne prêche qu'à des convertis. Et ça, c'est pas toujours facile. Y a-t-il pas... Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que l'histoire du passeport est fausse, que Radio Courtoisie ne peut pas donner une information
non,
qui
non,
est
je
fausse.
Je ne vais pas parler passeport. Il faut écouter... Enfin, j'ai simplement expliqué ce que je viens d'entendre à la radio, je n'invente rien, que le gouvernement français, qui a fait fermer les consulats en Algérie pour des raisons de sécurité, ce qui posait des gros problèmes de distribution de visas aux Algériens, vient d'autoriser les agences de voyage, les compagnies aériennes et les compagnies navales à se substituer au consulat pour la distribution des visas. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire que le contrôle normal que les consulats exerçaient sur la distribution des visas va être supprimé, puisqu'il est évident que les employés des compagnies aériennes et des compagnies et des agences de voyage ont autre chose à foutre que de faire de la vérification du bien fondé d'une demande de visa. Ils vont, comme de toute façon la vente du billet est liée à l'attribution du visa et que leur boulot c'est de vendre des billets, ils vont distribuer les visas comme on distribue des petits pains. C'est le bon sens même. Et c'est pas moi qui le dis, je crois que ça a été dit sur Europe numéro 1 ou Radio Luxembourg ou France Inter. Tout à l'heure.
Et n'y a-t-il pas moyen d'attaquer au Conseil d'État ou ailleurs ce décret ?
Mais il ne s'agit pas d'un décret, il s'agit d'une disposition réglementaire, tout simplement.
Et puis alors, on parle beaucoup des Algériens, enfin d'Algérie. On vous demande là de donner vos sources. Oui, ben ça, c'est, vous savez, c'est fait. À propos de Goussainville, il y a l'affaire de Goussainville. Des jeunes musulmans ont bloqué l'accès au collège car 4 jeunes filles avaient été exclues. Et de plus, ils parlent maintenant de bloquer le département si la décision est maintenue. Alors où va-t-on si en plus les visas, etc. permettent
Je ne tiens pas tellement à revenir sur ce sujet parce que j'ai déjà donné ma position sur le voile islamique. Et comme c'est une position qui n'est pas, je dirais, conforme et qui n'est pas politiquement correcte, je trouve que j'ai déjà assez de soucis avec l'histoire de l'avortement pour pas en rajouter une deuxième couche. Mais je voudrais quand même dire que le résultat, que quand on n'est pas capable de gérer une population immigrée, quand on n'est pas capable de gérer une population d'ailleurs quelle qu'elle soit, quand on n'est pas capable de faire régner l'ordre dans une banlieue, quand on n'est pas capable de faire respecter la législation de la sécurité quotidienne, c'est-à-dire quand on est obligé de tolérer que les rues soient mises à feu et à sang par des bandes armées, sans pouvoir rien faire contre, parce qu'on n'a pas le courage d'envoyer la police, et s'il le faut l'armée contre ces voyous, quand on n'a pas le courage de faire ça, on ne vient pas agiter un chouffon rouge sous le nez de ces populations, en prétendant leur dicter les impératifs vestimentaires qui nous conviennent. La première chose à faire, c'est de dire à ces gens, vous pouvez porter le voile islamique autant que vous voulez, mais chez vous. Et puis vous pouvez faire ce que vous voulez, foutre le feu aux voitures si vous voulez, mais chez vous. Vous pouvez brûler les boutiques si vous voulez, mais chez vous. Mais chez nous, vous ne pouvez pas le faire. On ne va pas commencer à poser un problème supplémentaire qui est celui du voile islamique, qui est un problème totalement annexe et qui est un problème scandaleux d'ailleurs. Parce que dans ce cas-là, pourquoi on ne pose pas le problème des autres
apparences vestimentaires. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il n'y a pas que le voile islamique qu'on se met sur la tête et qui peut être considéré comme une manière ostensible de proclamer sa foi. Moi, j'ai rien contre la foi ostensible. Je suis couvert de médailles comme l'âne chargé de reliques. Et donc, je considère que c'est mon droit strict de manifester mon appartenance à l'Église catholique. Après tout, si les gens veulent manifester leur appartenance à l'islam ou à la synagogue, c'est leur problème. Moi, ça ne me fera pas bouger d'un poil. Moi, ça ne me gêne pas une jeune fille avec un voile islamique ou un jeune juif avec une kippa sur la tête. Je m'en fous absolument. Ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Ils peuvent se mettre des plumes dans les fesses si ça les amuse. C'est leur problème, c'est pas le mien. Du moment qu'ils respectent les règles du pays dans lequel nous vivons tous. Voilà. Je pense pas, franchement, que le problème de l'immigration en 1994 se pose en ce qui concerne le voile islamique. Je crois qu'il y a d'autres problèmes autrement plus graves que celui du voile islamique. Voilà, j'en ai quand même parlé.
Après Goussainville, on voit des gens à la télé, chez Delarue par exemple, qui demandent que l'on arrête de servir le poisson le vendredi à la cantine et à la radio que l'on supprime les vacances de Noël. Car Noël n'est pas en référence directe à l'islam. Jusqu'où ira-t-on ?
Vous savez, il y a quand même une chose qu'il faut rappeler, c'est que Mgr de Courtrai avait supprimé de son discours, j'en parle dans le numéro du Libre Journal qui paraît, qui vient de paraître, Mgr de Courtrai avait supprimé de son discours l'expression « Église de France ». Il disait jamais l'Église de France. Il disait l'Église qui est en France. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, c'était l'Église qui est en France, comme la synagogue qui est en France, comme la mosquée qui est en France, comme l'islam qui est en France, comme n'importe quelle religion qui est en France. Et donc, il niait par là même le lien consubstantiel, en quelque sorte, entre la civilisation française et le catholicisme. À partir de là, tout devient possible, effectivement. Pourquoi faire des fêtes à Noël si la France n'est plus le pays, la fille aînée de l'Église? On peut aussi bien faire des fêtes, faire des vacances à n'importe quel moment de l'année. On s'en fout. Pour moi, ça ne changera rien. Je veux dire, les fêtes de Noël, ça m'est complètement égal. Du moment qu'on nous permet de célébrer simplement par le repos le jour de Noël, le 25 décembre, de même qu'on permet aux Juifs de faire Kippour et aux islamistes de faire l'Aït el-Kébir, moi le reste, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas se battre sans arrêt sur tous les terrains. Ils veulent supprimer les vacances de Noël. Bon, les vacances de Noël n'ont aucun caractère religieux. Ce qui a un caractère religieux, c'est la fête de Noël.
Attention, on n'appelle plus maintenant vacances, par exemple, les vacances de Pâques s'appellent les vacances d'été.
Vous avez les vacances d'hiver, voilà. Les vacances de printemps, les vacances
d'été. Comme il y en a souvent, alors on ne sait plus bien comment ça s'appelle.
Bref.
Et puis, bref, alors juste une dernière remarque humoristique. Pour faciliter le logement des futurs réfugiés algériens, M. Pasqua ne pourrait-il pas les échanger contre les jeunes des banlieues?
Oui, c'est une idée, mais le problème, c'est de savoir si les jeunes des banlieues vont vouloir être échangés. Et ça, c'est pas certain du tout.
Et à propos, j'ai une précision à propos de ce que vous disiez tout à l'heure. Les intéressés doivent remplir et renvoyer un formulaire qui précise les pièces à joindre. Ce formulaire peut être retiré en Algérie, bureau Air France et agence de voyage. Il devrait être envoyé à l'adresse suivante, ministère des Affaires étrangères, nom de CEDEX France. Mmh. C'est comme ça qu'il faut pratiquer. Voilà,
c'est intéressant. Une dernière question.
Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à l'université d'été du Front il y a 2 ans. Alors que vous avez dit, je ne suis pas prêt d'y retourner.
J'ai dit, je ne suis pas prêt d'y être invité. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais invité à l'université d'été. On m'a demandé de faire un discours et je suis arrivé. J'ai engueulé tout le monde en disant, la presse nationale est en train de crever. Et c'est de votre faute.
Mais tu n'es pas un peu en deuil?
J'étais tout en noir. Je suis arrivé tout en noir en disant, je porte le deuil de la presse nationale que vous êtes en train de tuer par votre indifférence. Parce que vous ne lisez que Le Monde, Libération et autres torches œil, vous ne lisez ni Présent, ni à l'époque Minute, quoique Minute maintenant n'est plus en cause, ni Rivarol, ni Mondésir, ni tout ça, vous n'en parlez jamais, et on est en train de mourir. Et j'avais pas tout à fait tort, il faut bien reconnaître, mais ça avait été assez mal reçu, et donc on m'avait fait savoir à l'époque que je ne serais plus invité comme orateur au Front National
Mais ça y est, tout a été effacé. Est-ce que les Anglais et les Japonais de passage en France vont être autorisés à rouler à gauche? Puisque chacun fait ce qu'il veut. Quelle est ta loi?
Est-ce que Marc Dem a craqué ou est-ce qu'il est toujours avec nous?
Sur les Japonais, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne le dirai pas.
Oui, s'il s'agit encore de dire du mal des Japonais, ce n'est pas la peine. Madame Cresson s'en est occupée avant vous. Mon cher Marc, bonsoir. Je rappelle que vous intervenez hebdomadairement, normalement à 7h30, mais aujourd'hui nous sommes en retard, pour nous livrer quelques brillantes pépites tirées du filon que constitue votre journal, votre lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum. Et donc vous avez la parole pour 3 nouvelles que je vous supplie de donner bonnes, parce que j'ai un peu le moral usé ce soir.
Oui, vous savez, j'avais marqué là pour vous le dire tout de suite, le mot révolution. Alors, nous sommes dans une révolution permanente, dans l'Église, et c'est ce qui fait que les nouvelles ne seront bonnes que lorsque cette révolution sera finie. Alors, je suis obligé quand même de vous en donner qui ne sont pas très bonnes. D'abord, je parle de Jonas. On a parlé de Jonas, mais pas trop. Et Jonas, j'explique ce que c'est. C'est un groupe de prêtres. Un groupe de prêtres qui en recueillerait 2000 membres, donc, dans ce mouvement. Et ces 2000 membres, c'est beaucoup, parce que vous savez, on ne sait pas très bien combien il y a de prêtres en France, hein, de prêtres diocésains, disons, je ne parle pas des religieux. Bon, en 86, il y en avait 27 000. Les projections annoncent moins de 20 000 en 95. Pour passer, toujours les projections, en dessous de la barre des 10 000 vers l'an 2000, vers l'an 2010. Alors, ce qui fait qu'actuellement, on compte environ 20 000 prêtres et que ces adhérents de Jonas sont au nombre de 2 000, ça fait 1 sur 10. Comme disait un ancien ministre, j'ai oublié son nom, l'ancien ministre de l'Intérieur à propos des francs-maçons, c'est assez pour que je m'en préoccupe. Alors, Jonas a fait sa grande rencontre annuelle, il a 4 ans maintenant, et d'une façon assez étonnante, enfin pas étonnante, mais assez scandaleuse, d'abord, 3 points, hein, l'évangile, c'est l'évangile, comme chez les protestants, et il déclare qu'il est désormais difficile de voir comment l'évangile rejoint les formules dogmatiques de notre credo. Donc, plus de credo, il faut renouveler les expressions de la foi sans les réduire à des formules, etc. Bon, ça commence bien. Ensuite, il félicite les évêques qui ont fait des synodes diocésains, ce qui montre que les synodes diocésains, ce n'est pas quelque chose de très recommandable, mais qui n'ont pas fait assez encore. Ce qu'il faut, c'est ouvrir le débat et que tout le monde dise son mot et qu'on refasse une religion, c'est ça le sens de leur proposition, qu'on refasse une religion en interrogeant la base d'une façon constante et d'une façon exhaustive.
Mais ça donne des résultats toujours très rigolos. Je crois que c'est l'archevêque de Lyon qui, avant sa mort, avait promis de publier les résultats d'un synode laïque, enfin d'un synode local, je veux dire, et quand il a vu les résultats, qui étaient tellement effroyables par le délire des propositions qui étaient avancées, il a renoncé à rendre public les résultats de cette réunion, parce que c'était n'importe quoi, c'était hallucinant. Donc,
bien sûr, parce que participent à ce synode pas mal de chrétiens, mais surtout ceux qui ont des grandes gueules.
Hein. Et toujours dans le même. C'est l'éternel problème. C'est l'éternel problème des permanents syndicaux qui sont les plus mauvais ouvriers. C'est pour ça qu'ils font du syndicalisme en permanence.
Enfin, évidemment, pour Jonas, il faut des hommes mariés qui deviennent prêtres, y compris des femmes d'ailleurs, etc. Bon, ça, ce n'est pas original. Mais ce qui est plus original, c'est que quand je parle de 2000 prêtres, bon, il y a aussi des évêques qui font la révolution. Et ce qui est plus original, c'est donc ce qu'a déclaré, non pas un évêque, mais un prélat, Mgr Muskens, directeur du Collège hollandais de Rome, Il a dit, bon, le pape ne veut pas de femmes prêtres, mais elles vont pouvoir, un jour, je ne dis pas quand, encore, ce sera certainement long à venir, elles pourront devenir cardinales.
Ah ben, remarquez, on peut être cardinal sans être prêtre.
Oui, plus maintenant, oui. Mais pendant longtemps, on a pu être.
Je le regrette parce que c'était une de mes ambitions.
Oui, ah ben, vous savez, à ce titre-là, ça finira peut-être par arriver. Bon, donc, que les femmes ne
comment,
se découragent
titre-là,
pas,
qu'est-ce
elles
que vous voulez dire par là
peut-être cardinales un jour. Et alors, parmi les évêques qui font la révolution, il y a les trois Allemands, nos seigneurs, Lehmann, Casper et Sayer. Je rappelle que Monseigneur Lehmann est le président de la conférence épiscopale allemande. Or, les trois évêques ont fait une déclaration sur les divorcés remariés, et en prenant l'opposé de ce que le pape ne cesse de répéter. Donc, ils disent, au fond, les divorcés et remariés, s'ils consultent leur conscience, et si elle leur dit, vous pouvez aller communier, ben, qu'ils aillent communier.
C'est le libre examen, ça.
C'est le libre examen. Et alors, il y a une chose qui s'est produite, il y a eu la conférence l'assemblée d'automne de cette conférence épiscopale, et on n'en a pas soufflé mot, mais on sait que les trois évêques avaient été convoqués à Rome, où ils ont passé 5 heures chez le cardinal Ratzinger, dans une discussion très vive. Et le week-end dernier, samedi dernier, Mgr Stickler, le cardinal Stickler, est arrivé à Fulda pour participer à une réunion. Et chez Mgr Diba, vous savez qu'il y a quand même un bon évêque en Allemagne, c'est Mgr Diba, évêque de Fulda. Et Mgr Stickler, le cardinal Stickler, n'a pas hésité à parler à propos des trois évêques en question, d'un attentat anticatholique. Ce sont les mots qui ont été retenus d'ailleurs par la presse allemande, attentat anticatholique. C'est quand même énorme qu'on puisse dire ça de trois évêques, dont l'un est le président de la conférence épiscopale.
Oui, oui, ça montre dans quel état ils ont mis notre pauvre maison. Ben, moi qui vous demandais des bonnes nouvelles, c'est réussi.
Oui, eh bien écoutez, vraiment, je regarde mon prochain numéro et je n'en trouve pas du tout.
Donc les auditeurs qui s'intéressent aux mauvaises nouvelles
oui.
peuvent écrire pour avoir un spécimen de Iota Unum à la boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye-Sedex en envoyant une poignée de timbres pour vous dédommager de... du souci que vous devez avoir
à... Une poignée, c'est beaucoup.
Collecter autant de mauvaises nouvelles. Marc, bonsoir, et puis la semaine prochaine.
Sans désemparer, M. Stiglia, je me tourne vers vous.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes, je ne sais pas trop comment dire, le spécialiste, un des spécialistes, en tout cas vous êtes spécialiste de ce que pour l'instant je me contenterai d'appeler, sans aucune idée péjorative, l'affaire d'Ozulé. Alors, je sais que beaucoup d'auditeurs savent de quoi il s'agit. Je sais également que les auditeurs sont très très partagés, que certains considèrent que d'Ozulé est le plus grand message qui a été donné depuis fort longtemps, que d'autres considèrent qu'il s'agit d'une imposture. Vous faites partie de la première catégorie et je vais vous donner la parole pour essayer de convaincre la deuxième. Alors qu'est-ce que d'Ozulé exactement ?
Eh bien, d'Ozulé, d'abord, n'est pas une secte ou un nouveau mouvement religieux. C'est le nom d'une ville, d'une petite ville, d'un petit village qui s'appelle donc d'Ozulé et qui se trouve à 25 km de Lisieux et de Caen. Et effectivement, c'est un message très important. Il ne s'agit pas de vouloir convaincre à tout prix, mais simplement d'informer objectivement. Car toutes sortes de rumeurs circulent depuis une quinzaine d'années. Et pour faire le tri dans toutes ces rumeurs, il faut d'abord bien se plonger dans ce dossier et se rendre compte que c'est l'Église et elle seule qui a recueilli le message de d'Ozulé. Personne n'a interféré dans la réception des paroles qui ont été recueillies ou dictées à Madeleine Aumont, donc cette mère de famille de 5 enfants, qui était tout à fait... inculte, innocente, tout à fait en dehors des pratiques de l'Église, et qui a été converti miraculeusement à la suite d'une communion où la présence du Christ s'est faite ressentir physiquement dans une joie spirituelle qui l'a bouleversée. Cette communion spirituelle mystique a duré 2 ans. Tout cela n'a rien d'extraordinaire, c'est arrivé souvent. Mais ce qui est important, c'est que son confesseur, l'abbé Lorsay, qui vit toujours et qui est curé de Pont-Farcy, qui a été muté à Pont-Farcy à 90 km de Dozulé, a, sur l'ordre de Mgr Jean Badré, suivi Madeleine Aumont pendant toute l'histoire de ses apparitions, puisque ce sont des apparitions du Christ. Ce sont des apparitions qui ont commencé exactement comme celle de Parelmonial, le 27 décembre 1972, alors que les apparitions du Christ à Parelmonial ont commencé le 27 décembre 1673, c'est-à-dire que 3 siècles jour, pratiquement jour pour jour, puisque c'est le même jour, 27 décembre, jour de la fête de Saint Jean, auteur de l'Apocalypse, qui veut bien dire révélation. Apocalypse, c'est la révélation du royaume du Christ, du triomphe de la paix et de la joie, voyez, qui est annoncé à partir de ce jour du 27 décembre. Et donc c'est l'Église et elle seule, par l'intermédiaire du curé, l'abbé Lorsay, curé de la paroisse, et des 3 religieuses de l'école Saint-Joseph, c'est l'Église qui a tout recueilli de A à Z. On ne peut pas dire que moi je suis spécialiste de Dozulé. Je ne suis que un informateur et je n'ai fait que lire les messages que l'Église a recueillis elle-même dans des procès-verbaux datés, signés et transmis à l'évêque le jour même par le curé de la paroisse. Vous voyez, c'est la première fois depuis 2000 ans que nous avons un document qui n'a rien d'illuminé, de fantaisiste, de péjoratif ou de subjectif. C'est un document, un procès-verbal, on ne peut pas revenir dessus.
Comment cela se manifeste-t-il ou se manifestait-il? Quelle était la situation physique? Où était cette dame qui recevait les messages?
Madeleine,
de quelle façon les recevait-elle?
Oui, alors voilà comment ça s'est passé. D'abord, il y a eu, en tout, de 1972 à 1982, 50 apparitions. Ces 50 apparitions ont fait l'objet d'un procès-verbal à chaque fois. Les 7 premières fois ont été sans témoin, et la 7e fois, les 6 premières sans témoin, et la 7e fois en présence de l'abbé Lorsay, donc le 27 décembre 1972.
Alors, les 6 premières, dites qu'elles se sont passées sans témoin, c'est-à-dire que Madeleine était la seule...
La seule, exactement.
À recevoir le message. Alors, comment sait-on qu'il y en a eu 6? Comment en connaît-on le contenu?
Alors, tout a commencé le 28 mars 1972. Madeleine, depuis 2 ans, donc, avait ses communions mystiques, ses communions spirituelles, qui la mettait dans une joie intérieure extraordinaire et qui peu à peu l'avait ramenée à Dieu, voyez, parce qu'elle ne pratiquait pas. Et pour faire plaisir à sa mère, elle était venue faire ses Pâques, comme elle disait, c'est-à-dire se confesser, communier le dimanche de Pâques, 28 mars 1970. Et elle le raconte elle-même dans son journal en des paroles merveilleuses. Elle ressentit cette présence pendant 2 ans à chaque communion. Donc ce n'est ni un prêtre, ni une lecture, ni une souffrance, ni un choc psychologique ou traumatique qui l'a convertie. C'est uniquement la présence réelle du Christ au moment de la communion. Bon, au bout de 2 ans, le 28 mars 1972, exactement le même jour, 28 mars, à 4h30 du matin, elle raccompagnait son mari à la porte de sa maison. Lui était ouvrier, partait à l'usine, et à ce moment-là, elle remontait et dans sa chambre, face à la colline qui domine cette maison, elle se mettait les bras en croix et faisait une petite prière qui s'appelle la prière à la Sainte Trinité, qui est un acte de foi. Mon Dieu, je crois que vous êtes ici présent, etc. Et à ce moment-là, avant même qu'elle ait commencé, une immense croix se forma pendant 20 minutes de suite, illuminant tout l'horizon. Et elle entendit « Ecce crucem domini ». Ne sachant pas le latin, elle écrivit simplement, comme ça se prononce en langage phonétique, « E-T-C-H-E, Ecce », voyez, et demanda le lendemain à son prêtre, l'abbé Lorsay, le curé de la paroisse, « Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur le curé ?» Et celui-ci, très intrigué, sachant que cette paroissienne avait déjà eu une conversion quand même assez spectaculaire, et lui ayant dit très prudemment « Cela n'arrive pas qu'à vous », vous voyez, pour pas la mettre en exergue. Et en fait, elle était comme ça, tout à fait convaincue qu'elle n'était pas un phénomène. et lui dit, ça veut dire voici la croix du Seigneur. En fait, c'est le psaume 67, voici la croix du Seigneur, fuyez puissants ennemis. C'est le début de l'exorcisme que Léon XIII a repris dans le fameux exorcisme de Saint-Michel. Et donc, toute une série de messages ont commencé, les six premières fois, simplement à l'apparition d'une croix immense face à cette maison où elle habitait. Puis, la septième fois, le Christ, le 27 décembre 1972, qui va revenir le premier vendredi du mois, chaque premier vendredi du mois, de l'année 1973-74, et va lui dicter un message d'une importance capitale pour toute l'humanité, pas spécialement pour le diocèse de Bayeux ou l'Église catholique. Vous voyez, devant la gravité de la situation, le curé, comprenant qu'il s'agissait d'un phénomène tout de même peu banal, demanda tout de suite à l'évêque la démarche à suivre. Et celui-ci lui demanda donc de faire des procès-verbaux à chaque fois et de lui transmettre immédiatement. Puis alors, il lui demanda...
Pardon, monsieur Stubir, oui. Ce que vous nous dites là, c'est avéré par des documents. C'est-à-dire j'imagine que le prêtre a écrit à son évêque en lui disant « voilà ce qui se passe ». Et donc on a cette lettre, on a la réponse de l'évêque qui lui dit « voilà comment il faut procéder ».
Oui, c'est-à-dire qu'il a été le voir, il lui a demandé que faire, et ses procès-verbaux ont été rédigés, tapés à la machine, datés et signés. Vous voyez, même si l'évêque a fait une enquête diocésaine d'information qui n'est pas une enquête canonique, contrairement à ce que Jean-Paul II lui avait demandé, en 1984, il n'a jamais fait d'enquête canonique, Jean-Paul II l'avait demandé, le Saint-Père était intervenu personnellement. Eh bien, il faut bien savoir que ces documents existent et qu'ils sont irréfutables. On ne peut plus revenir dessus. Vous faites un procès-verbal sur la route, ce que vous avez signé, c'est fait. Vous ne pouvez plus revenir dessus. Bon. Et donc, le prêtre, en plus, avait demandé l'assistance d'un théologien pour suivre cette mystique. Et il avait demandé en particulier à Jean Guiton, l'académicien et écrivain catholique, n'est-ce pas, de venir examiner, et lui avait parlé de cette paroisse sienne, et lui, à ce moment-là, était intervenu auprès d'un spécialiste qui s'appelait Gérard Cordonnier, qui était ingénieur polytechnicien, qui s'était déjà occupé des apparitions de Pellevoisin, et à la demande de l'évêque, à la demande tout de même et avec l'accord de la paroisse, Gérard Cordonnier est venu pendant 9 mois, en 1976-77, chaque week-end, au presbytère, examiner ses documents. Et stupéfait par l'importance de ce qu'il a découvert, il a dit au curé, puis ensuite au représentant de l'évêché, « Vous n'avez pas le droit de garder cela secret, ce sont des paroles qui ne s'adressent pas au diocèse de Bayeux, ni à l'Église de France, ni à l'Église catholique, mais au monde entier, à toute l'humanité. » Car effectivement, le Christ intervient pourquoi ? Eh bien, dans chaque période historique de décadence spirituelle, Dieu prévient les hommes par les prophètes et par les apôtres. Vous voyez, c'est ce qu'on retrouve dans l'Évangile, quand Saint Paul nous dit « L'Église est fondée sur l'Église est fondée sur les prophètes, sur les apôtres et sur les prophètes. Hein, il s'agit des prophètes du Nouveau Testament. Et ensuite, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Discernez, recevez tout, discernez, et ce qui est bon, retenez-le. » Eh bien, il faut savoir donc qu'effectivement, l'abbé Lorsay et les religieuses ont témoigné pendant plusieurs années de l'authenticité de ce qu'ils voyaient. Ils n'ont jamais rien inventé. Vous voyez, les religieuses n'étaient pas présentes au début. L'abbé Lorsay était absent à la fin. On l'a muté pour voir si cela allait continuer. Mais ça a continué. Les plus importantes apparitions du Christ annonçant son retour en gloire, aux yeux de toute l'humanité, se sont passés après le départ de l'abbé Lorsay. Le père Manceau, qui était théologien et qui est décédé maintenant, qui a écrit lui-même un livre sur Dozulé, « Le retour glorieux du Fils de l'homme », le père Manceau lui-même a relevé 120 citations des Écritures et 19 citations en latin de la liturgie grégorienne. Or, Madeleine ne savait ni le latin, ni les Écritures, elle n'a pas de livre chez elle, c'est une femme d'ouvrier très simple. Et vous voyez, l'important, c'est que justement, elle soit incapable d'inventer ça. L'évêque, Mgr Piquant, le successeur de Mgr Badré, m'a dit lui-même, non, ça ne peut pas venir d'elle. Alors je lui ai dit, mais alors ça vient de qui ? Ça vient de l'abbé Lorsay. Ça vient pas de l'abbé Lorsay, il était parti avant la fin des apparitions. Ça ne vient pas des religieuses, elle n'était pas là au début. Vous voyez ? Et d'ailleurs, elle ne se condamnerait pas elle-même. Quand le Christ dit « Vous, prêtres et religieuses, souvenez-vous de ma parole, je vous ai demandé de travailler pour élever la croix glorieuse. Vous serez jugés au nombre de ceux que vous aurez sauvés. Le moment est venu où je dois verser dans les cœurs ma miséricorde. » Et il annonce au monde entier, mais tout simplement ce que Jean-Paul II a annoncé lui-même à Fulda, dont justement Marc Dem parlait tout à l'heure, à Fulda, où Jean-Paul II a annoncé d'une façon très claire, nous devons, en 1981, dès le début de son pontificat, nous devons nous préparer à subir dans un temps non éloigné de grandes épreuves qui exigeront de nous la disposition de perdre même la vie et une remise totale de soi au Christ et pour le Christ. Par votre prière et la mienne, il est possible d'adoucir cette tribulation, mais il n'est plus possible de la détourner, parce que de cette façon seulement, l'Église peut être rénovée. Et il ajouta, combien de fois la rénovation d'Église est effectuée dans le sang? Cette fois encore, il n'en sera pas autrement. Et en fait, Jean-Paul II, qui est parfaitement au courant de Dozulé, nous avons été en 1983 avec un groupe d'amis invités à Rome à venir nous expliquer, et le confesseur du pape, qui s'appelait à l'époque le père Gréco, qui était un Français, nous a écoutés pendant 3 jours, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amabilité, de bonté, ce qui tranchait vraiment avec l'attitude de certains clercs en France à ce sujet, qui tout de suite nous traitent de secte ou d'illuminés ou de peuple en détresse ou en désarroi, comme on l'a vu dans Le Pèlerin, qui n'a pas hésité le 16 août dernier à rapporter les informations les plus ridicules, absolument, complètement à côté de la plaque. Eh bien, vous voyez, ce père Gréco, lui qui était confesseur de Jean-Paul II, nous a écoutés et nous a dit à la fin, continuez cet office de lumière, quelles que soient les oppositions. Eh bien, c'est ce que nous avons fait, et je peux vous le dire, avec des quantités de critiques, de calomnies de toutes sortes. J'ai assisté à beaucoup de conférences, notamment sur le problème des sectes. Et combien de fois j'ai entendu Dozulé cité comme une secte, alors que quand l'humanité se rendra compte de la vérité, parce que les documents historiques existent, n'est-ce pas, puisque c'est l'Église qui les a rédigés, c'est pas moi, c'est l'Église qui a rédigé le texte de toutes ces apparitions, des paroles du Christ. Vous voyez, il faut bien savoir que le Christ n'apparaissait pas dans une cuisine ou dans un salon, mais qu'il apparaissait à la place du Saint-Sacrement. Vous me demandiez tout à l'heure, Serge de Beketch, comment se passait justement cette apparition. Voilà comment ça se passait. D'abord, le Christ avait demandé à Madeleine de faire la prière en public à l'endroit où la croix glorieuse était apparue sur une butte en public, sur le haut de la colline. Et l'évêque s'était opposé tout de suite. Il a demandé à l'abbé Lorsay, je vous autorise à continuer, vous allez faire les procès-verbaux, mais tout ça, ça va être fait dans le plus grand secret. Vous allez vous enfermer avec cette personne et avec les religieuses dans la chapelle de l'école Saint-Joseph, qui est une chapelle privée qui appartient à l'école des sœurs, nous sommes en milieu catholique, hein, on n'est pas dans une secte, et vous avez donc tout noté. Et donc, elles se réunissaient chaque jour, les sœurs, le prêtre et Madeleine, pour faire le chapelet. Et tous les jours, ils faisaient le chapelet ensemble. Mais on ne savait jamais, elles ne savaient jamais, quand allait avoir lieu l'apparition. Voyez, sauf dans l'année 1973, où le Christ apparaissait le premier vendredi du mois, et à la fin de l'année 1975, où il est venu chaque jour pendant une neuvaine, prolongé en l'année 1975 par la prière, en disant que cette année 1975 était l'ultime année sainte. L'ultime. Et qu'il demandait à l'Église d'informer le monde entier de cette tribulation imminente annoncée par, tout de même, c'est quand même l'évangile de Saint Matthieu, la grande tribulation de Saint Matthieu annoncée à toute l'humanité avant la fin du siècle. Et le Christ annonce bien que cette tribulation se terminera par le triomphe du Christ, par son retour, au moment où tout le monde croira que c'est la fin, dans un désespoir complet. Ce qu'il voulait, c'est que la miséricorde, cette notion d'amour, de pardon, de bonté, vienne dans l'humanité, que les hommes comprennent que ce ne sont pas des châtiments irrémédiables. Le message de Dozulé n'est pas un message de catastrophe du tout. C'est un message où le Christ prévient ce que tout le monde voit se réaliser en ce moment, c'est-à-dire ce que Alexandre de Maranche a appelé lui-même la menace ABC du terrorisme, atomique, bactériologique, chimique, dont il a dit que tous les services secrets du monde entier savaient qu'elle serait en application avant la fin du siècle. Voyez ? Et le Christ ne fait que confirmer cela en disant « Satan séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes, si l'humanité ne s'y oppose pas. » Par la prière, voyez, par le changement de vie. Je laisserai agir, et ce sera la catastrophe telle qu'il n'y en a pas eu depuis le déluge, et qu'il n'y en aura plus jamais. Et ceci avant la fin du siècle. Et plus loin, il annonçait 1975 sera l'ultime année sainte. Il avait donné à Monseigneur Badré, l'évêque de Bayeux, le témoignage formidable de voir cette petite couturière, quand même de 47 ou 48 ans à l'époque, venir lui dicter tout le message en latin chez lui, dans son bureau, avec son représentant, etc. Et alors qu'elle ne savait pas un mot de latin, ni de ce qu'elle allait dire avant de rentrer, elle était inquiète, elle était avec son prêtre et les trois religieuses. En allant là-bas, elle ne savait pas ce qu'elle allait lui dire. Et à peine elle était dans ce bureau, qu'immédiatement, toutes ses paroles lui sont revenues. Et attendez, il y a un petit point qui est très intéressant du point de vue médical, c'est qu'elle a un défaut de langue qui s'appelle un sigmatisme, pour les orthophonistes, c'est-à-dire un cheveu sur la langue. En français, aujourd'hui, puisqu'elle va avoir 70 ans, elle l'a toujours. Or, dès qu'elle rentra en extase, les témoins me l'ont raconté, et puis les religieuses l'ont bien constaté, ce défaut de langue disparaissait immédiatement et revenait dès la fin de l'extase. Voyez, et elle adoptait le ton du Christ. Elle répétait à haute voix. À Medjugorje et dans d'autres lieux dont on parle souvent, les voyants entendent des paroles qu'ils rapportent, mais dont on n'a aucune preuve. C'est eux qui le disent. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas. Mais j'étais à Medjugorje. Bon, il est évident qu'on ne peut être qu'édifié par ce mouvement de prière et de conversion. Mais, à Dozulé, il faut bien savoir que là, Madeleine répétait à haute voix et en partie en latin les paroles dictées par le Christ. Et que tous étaient témoins, c'était en direct. Vous voyez, et les religieuses faisaient tout de suite leur procès-verbal. Et il y a eu deux religieuses le 4 juillet 1975, la supérieure générale de Blon et la sœur Jeanne d'Arc, qui avait une mission bien particulière, vous voyez, qui était tout à fait en liaison avec son nom de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc avait la mission de sauver la France, n'est-ce pas, de l'invasion et aussi de l'hérésie protestante qui menaçait par l'anglicanisme quelques années plus tard, avec Henri VIII, vous voyez, elle a réussi à permettre que la France reste catholique, Jeanne d'Arc. Eh bien, cette sœur Jeanne d'Arc avait pour mission d'importer au pape Paul VI, en 1975, une lettre qui lui a été dictée en présence des religieuses, du prêtre. L'évêque aurait pu venir, puisqu'il savait que c'était ce jour-là, qui a été dictée le 4 juillet 1975, et à ce moment-là, elles ont été témoins, elles aussi, de cette extase.
Alors, Monsieur Stiegler, plusieurs questions, parce que bon, on va peut-être pas développer plus longtemps ce que j'appelle l'affaire de Dozulé, pardonnez-moi d'employer ces mots, mais d'autant qu'il y a un livre qu'on peut lire, il y a des cassettes qui existent, mais il y a des questions qui sont posées par beaucoup d'auditeurs. Ce soir, et puis avant cette émission, quand j'avais annoncé qu'un jour je ferais quelque chose sur Dozulé, enfin j'inviterais quelqu'un à parler de Dozulé, la première réaction que j'ai eue, vous parliez tout à l'heure de calomnie, la première réaction que j'ai entendue quand j'ai annoncé qu'un jour on ferait une émission et que j'avais reçu les cassettes que vous avez faites, c'est « Oh là 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 là, mais Stiegler est quelqu'un qui profite » de Dozulé, il en vit, il fait un petit commerce.
Permettez-moi de vous dire tout de
suite. Je vous pose la question, voilà.
Exactement. Pour premièrement, qu'ils sachent bien, tous ces gens-là, que depuis 12 ans, j'ai publié 3 livres, le troisième aux éditions du Rocher.
Et le deuxième, Le Repentir Mondial, que je n'ai jamais accepté un centime de droit d'auteur. C'est très facile à vérifier, j'ai eu 2 contrôles fiscaux. Et 2 contrôles fiscaux sur dénonciations calomnieuses. Et je sais très bien d'où ils viennent.
Donc, vous n'êtes pas surpris de ma réflexion.
Non, pas du tout.
Bon, mais je préfère que vous
puissiez
vous
en habituel, vous savez. Oui, mais c'est tout à fait normal. Les gens ne peuvent pas imaginer qu'on soit bénévole et désintéressé. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est complètement polarisé.
Et puis, la deuxième question, je vous l'ai déjà posée quand on a évoqué ça au téléphone. Mais moi, ça me travaille énormément. Parce que c'est vrai que la façon dont vous en parlez ce soir, je sais pas, tout, on vous écoute, on est absolument suspendu à vos lèvres. Et si l'émission n'avait pas imposé son programme, je vous aurais laissé la parole encore pendant une heure, parce que c'est véritablement passionnant. Mais il y a des choses bizarres dans Dozulé. On en a parlé au téléphone. D'abord, il y a cette histoire de croix géante. Mmh. Et puis ensuite, il y a cette histoire tout à fait incompréhensible de bassin de poussière de baptême de la poussière, je sais pas. Alors, est-ce que vous voulez, vous qui connaissez parfaitement ces questions, résumer ces deux points brièvement?
Oui, c'est très simple, très simple. C'est très simple maintenant, vous savez, au bout de 12 ans de recherche, etc. Mais quand l'abbé Lorsay, lui, a reçu ces messages absolument extraordinaires, qui choquent autant aujourd'hui les catholiques, les bons pratiquants qui ne veulent pas se poser de questions, qui se disent « l'évangile me suffit, je n'ai besoin de rien d'autre ». D'abord, qu'ils sachent bien une chose, c'est que la civilisation chrétienne n'existerait pas aujourd'hui sans les apparitions du Christ. Premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est par ses apparitions qu'il a prouvé sa divinité aux apôtres. Eux-mêmes n'y croyaient pas, Saint-Luc le rapporte. Ils se refusaient à croire. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, mais écoutez, touchez-moi. Avez-vous un morceau de poisson à manger? Et c'est quand ils virent ce poisson disparaître qu'ils crurent qu'il était ressuscité. Mais avant, ils n'y croyaient pas parce qu'ils savaient que Saint-Jean avait descendu de la croix et qu'il avait perdu tout son sang. Voyez, donc pour eux, un cadavre qui était enfermé dans un tombeau ne pouvait pas être vivant et manger du poisson en face d'eux. Bon, ici, nous allons retrouver ce phénomène extraordinaire de cette croix immense. Vous me posez deux questions, je vais vous répondre très vite. Cette croix, le Christ dit, c'est la croix glorieuse, ce signe du Fils de l'homme dont on parle à Saint Matthieu. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra aux yeux de toutes les races, aux yeux de toute l'humanité, et toutes les races se frapperont la poitrine. Vous voyez, au moment de cette de ce cataclysme général qu'est la grande tribulation, qui comporte à la fois un cataclysme nucléaire et à la fois un cataclysme cosmique, parce que il faut quand même bien savoir que le cardinal Ratzinger l'a dit, hein, qu'il a bien lu lui-même le troisième secret de Fatima, et il a dit, lorsqu'il s'agit d'un cataclysme nucléaire et d'un cataclysme cosmique, on ne peut pas le dévoiler à toute l'humanité sans préparation. Eh bien, ici, dans ce message, le Christ prévient que ce cataclysme sera arrêté miraculeusement au moment où tout le monde croira à la catastrophe par un immense signe de la croix qui apparaîtra aux yeux de toute l'humanité, pas aux yeux de Madeleine, aux yeux de toute l'humanité. Et à ce moment-là, toutes les races se frapperont la poitrine et le combat nucléaire, le combat, la folie des hommes s'arrêtera brutalement. Et surtout, ce qui est capital, à ce moment-là, tous se frapperont la poitrine, les protestants, les orthodoxes, les catholiques, les fils d'Ismaël, les arabes, les fils d'Israël, tous comprendront. Et à ce moment-là, ils verront celui, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont crucifié. Et à ce moment-là, inox signo vinces, vraiment, on pourra dire que c'est par ce signe que l'unité des églises dont parle Saint Jean au chapitre 10, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur, se fera. Et c'est là qu'à ce moment-là, ce temps de la consolation, de la miséricorde divine, descendra sur l'humanité. Cet immense signe de la croix a choqué le prêtre, l'évêque, etc. Pourquoi? Parce que le Christ disait « chaque bras doit mesurer 123 mètres et sa hauteur 6 fois plus ». Alors l'abbé Lorsay a dit à Madeleine « mais enfin, Madame Aumont, êtes-vous bien sûr? C'est quand même impensable ». Et elle lui a dit « mais monsieur le curé, si ça avait été moi, je vous aurais peut-être dit 70 mètres au maximum, mais jamais j'aurais imaginé une affaire pareille ». Mais le Christ ne m'a pas dit 738 mètres, il a dit « chaque bras doit faire 123 mètres et sa hauteur 6 fois plus ». 6 fois 123, ça fait 738 mètres. Alors est-ce que cela choque? Est-ce que vous vous souvenez tout de même que les Juifs, les pharisiens, étaient scandalisés lorsque le Christ disait « détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai » ou bien « celui qui ne voudra pas manger de ma chair n'aura pas part avec moi à mon royaume ». Ils étaient scandalisés parce qu'ils ne comprenaient rien à ce moment-là, à sa résurrection au bout de 3 jours et à cette Eucharistie merveilleuse, vous voyez, qui est vraiment sa présence. Eh bien, maintenant, nous ne comprenons rien non plus à la croix glorieuse, parce que nous sommes tellement bornés par notre rationalisme intellectuel que nous n'imaginons pas qu'au moment d'une catastrophe mondiale nucléaire, et la mafia russe est prête à utiliser ce chantage ABC dont a parlé Alexandre de Maranche, vous voyez, eh bien, nous n'imaginons pas que Dieu puisse intervenir et manifester ce signe. Alors, pourquoi 738 mètres? Eh bien, simplement, l'abbé Lorsay s'est aperçu au bout de plusieurs mois, notamment dans une bibliothèque à Rouen, paraît-il, que le lieu du calvaire était exactement à 738 mètres. Vous voyez, Saint-Jérusalem, entre la vallée du Cédron et le haut de Jérusalem, ça va de 720 à peu près jusqu'à 765 mètres. Et le lieu du calvaire est à 738 mètres. Bon. Et d'autre part, il y a des gens qui ont dit « oui, mais c'est diabolique, 7 plus 3 plus 8, ça fait 18, c'est 3 fois 6 ». Parfaitement, ils ont raison. Mais il faut bien savoir une chose, Le Christ, avant d'aller sur le calvaire, se faire crucifier au lieu du crâne, au Golgotha, là où Adam avait été enterré, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par Gethsémani et il a pris dans cette grotte, comme le rapporte l'évangile de Saint Jean en particulier, tous les péchés de l'humanité. Tout ce péché d'iniquité qui est symbolisé dans l'Apocalypse par le 666. Et c'est seulement après s'être chargé de ce péché mondial passé, présent et à venir qu'il va le racheter par son sang en introduisant dans cette fente du rocher du calvaire le sang miraculeux, cette espèce de magnifique pierre philosophale qui est le sang du Christ, voyez, ce Graal, ce Saint Graal qui va à ce moment-là racheter l'humanité à l'endroit même où elle a chuté, puisque la tradition rapporte qu'Adam avait été enterré. Mais ces 738 mètres, c'est vrai, c'est le symbole du péché de l'Antichrist, la négation de Dieu, la société athée, matérialiste et rationaliste, dont nous avons vu l'application dans le communisme qui est dénoncé à Fatima. Et alors, pourquoi ce bassin de poussière? Eh bien, à Lourdes, vous me direz, c'est de l'eau pure, de l'eau fraîche, de l'eau de source. On va s'y laver pour s'y purifier. Aucun microbe n'est contagieux dans cette piscine. C'est merveilleux, parfaitement. Mais ici, vous voyez, c'est là que c'est fantastique ce message et qu'il demande une autre lecture que celle simplement d'une ouverture, d'une lecture en diagonale, etc. Il faut passer, et vous savez, j'ai passé 12 ans là-dessus, j'ai passé 20 ans auparavant dans l'étude des prophéties, de l'eschatologie, mais je sais que je n'en connais pas le dixième de ce qui est caché derrière ces paroles. Et il faut savoir que ce bassin de poussière, à l'endroit où le Christ annonce son retour, puisqu'il dit... Et tout de même, dans la 48e apparition, c'est sur cette montagne bénie et sacrée, lieu que mon Père a choisi, que sera rénovée toute chose. C'est ici que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, et voici qu'apparaîtra la demeure de Dieu parmi vous. Ça, c'est la fin de la tribulation. Parce que la grande tribulation est marquée par la mort de l'Antichrist. Voyez, et cette mort de l'Antichrist, Madeleine ne le sait pas ça, mais c'est très intéressant, cette mort de l'Antichrist, cette fin de la grande tribulation, ne peut avoir lieu qu'au moment du retour du Christ. Et c'est exactement ce que dit saint Paul, l'impie paraîtra, et le Seigneur le fera disparaître au moment de sa venue, par le souffle de sa bouche. Donc, la fin de la grande tribulation, la persécution finale des chrétiens, dont la Salette nous rapporte « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist », voyez, eh bien, sera marqué par le retour du Christ. Et ça n'a rien d'extraordinaire. Avant de terminer pour ce bassin de poussière, rappelons simplement ce qu'ont dit tous les papes. Voyez, tous les papes depuis Pie XII ont annoncé le retour imminent du Christ. Pie XII disait à Pâques 1957, « Venez Seigneur Jésus, il y a tant de signes que votre retour n'est pas loin. » Jean 23, à Noël 1959, « Le retour du Christ est proche. » Paul VI, le 13 mai 1970, le retour du Christ est presque imminent. Jean-Paul II annonçait le 1er janvier 1984, la menace de la catastrophe nucléaire et la plaie de la faim apparaissent terrifiantes à l'horizon comme les cavaliers fatals de l'Apocalypse. Or, la fin de cette tribulation par les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est le retour du Christ, c'est la révélation de son royaume que nous annonçons tous les jours à la messe. Seigneur, nous attendons ton retour au moment de la communion. À chaque messe, on le redit. Et n'oubliez pas que Jean-Paul II a dit à Zagreb il y a quelques jours, le Christ est vivant au milieu de nous. Le retour du Christ est imminent. Eh bien, le bassin de poussière, pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que le Christ a demandé d'élever une immense croix en acte de foi à l'Église catholique avant la fin de l'année 1975. Maintenant, il est trop tard pour accomplir ce devoir d'obéissance, cet acte de foi qu'il devait faire, sans avoir honte d'élever un monument immense. Dans Science et Avenir, l'autre jour, il publiait un article, les Japonais sont en train de préparer des tours de 4 km de haut, dont une avec plus d'un million d'habitants. Pour faire des affaires, vous voyez, on n'a pas peur, on n'a pas honte. Mais pour élever une croix, mon Dieu, alors là, on va voir l'air ridicule, vous pensez, on va passer pour une secte des illuminés, on n'a pas l'air sérieux, ça fait pas raisonnable. Mais il faut savoir que le Christ n'a jamais demandé des choses raisonnables aux apôtres. Jamais. voyez. Et c'est au moment où ils ont cru que cet homme qui avait refusé la royauté sur Israël le dimanche des rameaux allait tout perdre, c'est à ce moment-là, seulement après sa mort, qu'ils se sont aperçus qu'il était véritablement Dieu et que son royaume n'était pas de ce monde. Parce que jusqu'à présent, y compris Jean, ils attendaient tous qu'il soit roi d'Israël. Et cette déception du dimanche des rameaux a été tellement terrible que Judas a été le trahir et s'est suicidé ensuite. Vous voyez ? Eh bien là, il nous annonce, il demande à l'Église, il le demandait. Maintenant, ce qu'il nous demande à nous, laïcs, c'est de faire passer le message le plus vite possible avant cette tribulation. Pas du tout pour gagner de l'argent sur un livre dont on n'a absolument rien à faire en droit d'auteur, mais uniquement pour que les gens aient confiance et qu'au moment où ces événements redoutables vont arriver avec les pays de l'Est... où le communisme fait un retour en force, hein, qui va provoquer une persécution terrible de l'Église catholique, notamment en Italie. La 14e armée qui est aux portes de la Yougoslavie, qui n'obéit pratiquement plus à personne, est prête à se lancer dans cette aventure. Et si demain, quelques chefs de mafia à Moscou, Alain Duhamel a parlé de ces trois mafias dernièrement, notamment la mafia politique, qui, le jour où le chantage économique ne marchera plus parce qu'on sera face à un krach économique, si ces gens-là se jettent là, à ce moment-là, on se rendra compte qu'on n'a plus que l'espoir, justement, de ce sauvetage miraculeux. Alors, pourquoi ce bassin de poussière? Parce que le Christ prévient, sachez que vous êtes poussière et que vous retournerez en poussière. C'est cela qu'il dit à Adam. Et il annonce ici que l'homme va quitter sa condition adamique et va trouver cette condition de fils de Dieu. De pleurs, de cris, de mort, il n'y en aura plus. Et il annonce, Satan sera détruit, il ne restera que paix et joie. Et alors en fait, il demande aux pèlerins, aux laïcs, et je peux vous dire que Dozulé n'est ni un lieu réservé aux intégristes ou aux traditionnalistes, ni un lieu d'une secte, parce que...
Si j'en crois les messages, excusez-moi de vous couper, les intégristes et les traditionnalistes sont pas très dozuléens dans leur majorité.
Oh, il y a une certaine tradition quand même, parce que je peux vous dire qu'on est condamné parce qu'on se met à genoux, par exemple. Hein. Mmh. Ou parce qu'on communie souvent, Madeleine, le Christ lui demandait de se mettre à genoux devant elle, devant lui, devant le Saint-Sacrement. Quand il y a eu 5 apparitions de Saint-Michel, qui lui a dit, ne vous prosternez pas devant moi, mais devant celui que vous venez adorer. Et à ce moment-là, elle est allée se mettre devant le Saint-Sacrement à genoux. Et...
Enfin... C'est un témoignage formidable que vous donnez là involontairement, enfin je dis involontairement, d'une façon tangente, parce que on en arrive au point où le fait de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement est un signe d'intégrisme.
Mais c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que nous n'avons absolument rien à voir, soit avec une secte, soit avec un courant, soit progressiste, soit... La seule chose qui nous intéresse, c'est de faire ce que le Christ a demandé. Nous nous sommes aperçus avec stupéfaction que l'évêque n'avait pas voulu, je l'ai vu tout à l'heure, Monseigneur Badré, je lui ai demandé un entretien, je lui ai parlé quelques minutes, il m'a reçu, dès que j'ai abordé le mot dozulé, il m'a dit je n'ai rien à dire, c'est mon successeur actuel qui est chargé du dossier, je n'ai rien à dire, je ne veux pas parler de dozulé. Seulement quand vous allez voir Monseigneur Piquant, lui il vous dit je n'ai rien à dire, c'est mon prédécesseur qui a fait l'enquête diocésaine, je n'ai rien à dire, l'enquête est exhaustive, or c'est faux. Et je peux vous dire que le 17 septembre 1988, à 11h du matin, Monseigneur Piquant m'a reçu pendant une heure et m'a dit ceci. Ne dites jamais que l'Église a interdit dozulé, l'Église ne s'est pas prononcée. Ce qui ne l'a pas empêché 15 jours plus tard de dire exactement le contraire. Eh bien, vous voyez, tôt ou tard, devant la réalisation des prophéties, la vérité triomphera. Et ce bassin de poussière est simplement la démonstration que les fils d'Adam, dans cet acte d'humilité dans une eau de poussière, où l'eau, effectivement l'eau est boueuse, eh bien, acceptent leurs conditions, ne se révoltent pas et viennent humblement à cet endroit en croyant. Voyez. Et moi je conseille, puisqu'on a peu de temps, aux gens qui veulent approfondir la question, de lire L'avenir avant l'an 2000. Parce que ce livre, vous voyez, je vais vous dire comment je l'ai fait. D'abord, je n'avais pas du tout l'intention de le faire, parce que j'ai un travail qui me prend absolument tout mon temps. Et je l'ai fait l'année dernière à la suite d'un accident qui m'a immobilisé 3 mois, et où j'ai réuni les 70 questions
que les auditeurs m'ont posé pendant 10 ans de conférence. J'ai donc sélectionné ces 70 questions et vous avez là-dedans absolument toutes les questions qu'on peut se poser sur l'enquête, sur le discernement, sur qu'est-ce qu'une secte, n'est-ce pas une secte millénariste, le pape a-t-il été prévenu, quelle est la position de l'évêque de Bayeux, quelle est cette grande tribulation, l'apparition de la croix dans le ciel, la nouvelle évangélisation, l'unité des églises, la sécheresse mondiale, puisqu'il y a une sécheresse mondiale de 3 ans et demi qui est annoncée, c'est celle de l'Apocalypse au chapitre 11, voyez. Hein, je donnerai. Et voilà.
Alors,
et
tout ça, les gens peuvent se procurer ce livre.
Alors, ils peuvent se le procurer dans les librairies, en particulier à la FNAC ou dans les grandes surfaces. C'est L'avenir avant l'an 2000. Le secret de l'Église enfin dévoilé, qui est donc publié par les éditions du Rocher. Si vous ne le trouvez pas, il y a une façon très simple de vous le procurer. On vous l'envoie sous 24 heures par port spécial, par porteur spécial. Vous écrivez en envoyant un chèque de 125 francs plus 25 francs de port, c'est-à-dire 150 francs, à ACB, 14 430, Dozulé, et on vous l'envoie par retour du courrier. Mais vous pouvez vous le procurer, j'espère, en librairie si la mise en place est faite, ou en tout cas dans les grandes surfaces, à la FNAC, à la Procure, ou Virgin Megastore, je sais que c'est approvisionné.
À quel prix ?
Le livre vaut 125 francs, et si vous le voulez par correspondance, vous joignez en plus 25 francs de port, on vous l'envoie par une enveloppe distinguo, enveloppe spéciale, et vous l'avez sous 24 heures. Et je vous le répète, il ne s'agit pas d'une affaire commerciale, nous n'acceptons aucun don, et je ne touche aucun droit d'auteur, ni sur les cassettes, ni sur les livres, c'est une entreprise strictement bénévole, dans le cadre d'une association loi 1901.
Qui a subi 2 contrôles fiscaux.
Moi, personnellement, j'ai subi 2 contrôles fiscaux sur mon compte personnel, et je peux vous dire que quand j'ai dit à l'évêque, vous savez, le contrôle fiscal n'a rien donné, il a simplement rougi. Et j'ai très bien su d'où ça venait.
Alors, ne dites pas de mal des évêques, ça n'est pas le genre de cette émission.
Il pouvait pas rougir, il était déjà rouge.
Monsieur Stigler, merci. Pardon de ne pas vous donner plus de temps. Je dis aussi pardon aux auditeurs, parce que s'ils sont aussi passionnés que nous tous autour de cette table, alors ils doivent être accrochés à leur poste. Mais j'ai 2 autres invités que je vais évidemment maltraiter. Enfin, ils ont l'habitude, puisque ce sont des permanents de cette émission. Est-ce que vous croyez que si vous revenez, vous avez d'autres choses à nous dire ?
Mais là, vous voyez, c'est une petite introduction. Si ça vous intéresse, on pourrait développer cette affaire de la Grande Tribulation au sujet de la Russie, qui est extrêmement intéressante et profonde.
Alors, c'est entendu.
Et puis, le problème aussi de ce nouveau monde merveilleux que l'Écriture nous annonce et qui est un message d'espoir pour toutes les religions, pas seulement pour les catholiques, mais pour toute l'humanité.
Alors, c'est entendu. Je vous propose de revenir dans quelques semaines pour évoquer le premier de ces sujets.
Si vous voulez, je suis à Paris fin octobre, pour la Toussaint, je veux bien.
Eh bien, écoutez, on voit ça. On prendra rendez-vous hors micro.
D'accord.
Merci. Marie-Josée, on change complètement de sujet. Alors, vous nous parlez, quand vous venez, une fois par mois, d'un peintre. On a parlé de Picasso, on a parlé de Braque. On a parlé de...
Non, Braque, vous la ramenez tout le temps, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais parlé de Braque. On a parlé de Matisse.
De Matisse, voilà. Et je sais pas pourquoi. Enfin, bon, bref. Ce soir, on pourrait parler de Monet, par exemple.
Ce soir, vous savez, vous m'aviez demandé que ça aurait été gentil de parler de quelque chose de positif et de joli.
Oui.
Alors, ce soir, effectivement, je n'ai envie de parler que de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Monet. Et je pensais le faire rejoindre par Renoir et même par Frangelico, parce que ça peut vous paraître tout à fait bizarre, étant donné qu'ils ne sont ni les uns ni les autres de la même période. Mais j'ai pensé que pour les auditeurs, c'était intéressant de faire la différence entre un peintre comme Renoir qui a sanctifié la chair, une chair joyeuse, très agréable, qui a une technique extraordinaire de joie de vivre et de truculence. Quand vous voyez, par exemple, Rubens, je ne sais pas si vous aimez Rubens, moi, personnellement, la graisse de Rubens m'ennuie. Je trouve qu'elle est trop grasse et un peu trop celluliteuse. Tant pis pour ceux qui l'adorent, mais là, je parle de goût et non pas de qualité. Rubens est un merveilleux peintre, et effectivement, c'est parfait, mais ce qu'il évoque n'est pas, à mon sens, parfait. À l'inverse, Renoir, c'est une telle joie mais telle joie de la chair que on peut regarder une coiffure de Renoir, des yeux de Renoir, des bras de Renoir, c'est toujours beau, c'est la chair glorifiée, sanctifiée, belle, généreuse et joyeuse. Mais ça, pour celui qui n'aime pas la chair, alors c'est ça où c'est important, c'est que celui qui n'aime pas en fait les gens qui sont bien en chair, et puis cette joie de vivre qui est en fait très matérielle, et ils vont dire Renoir, ah non c'est pas beau, parce que simplement ils n'aiment pas le sujet.
Alors, oui, c'est ce que vous faites avec Rubens d'ailleurs.
Exactement, et ça je le dis, on a tous spontanément une certaine manière de regarder les choses qui est personnelle, qui est subjective. Mais, contrairement à ce que vous venez de me dire, dans Rubens, je dis, c'est un très grand peintre, merveilleux, mais le sujet ne m'intéresse pas. En tout cas, beaucoup moins. Dans celui de Renoir, pas du tout. Monet, c'est, à mon avis, le même problème. Monet, lorsqu'il peint, lorsque vous voyez les nymphéas, donc, j'adore, il a, alors lui, toute une douceur et une multiplicité de coloris dans la douceur et la subtilité extraordinaire. Et lui, les sujets sont presque secondaires. Quand vous voyez des travaux, des tableaux de Monet, ce n'est pas la forme des nénuphars qui sont importantes, c'est simplement une ambiance de couleurs qui donne toute une ambiance de vie de la nature et de la sensibilité, et c'est tout aussi quelque chose de transcendant, mais par rapport à la nature, et non pas à l'homme, à l'humain. Et puis Frangelico, qui est, je sais que je remonte dans le passé, en général je fais toujours ça parce que il paraît que c'est un signe d'égoïsme, on part de son nombril et on retourne en arrière. Donc Frangelico...
Et on l'a dans le dos d'ailleurs.
Hein, absolument. Frangelico, lui, avec ses fresques, je trouve que ce qui est fabuleux, alors lui amène la transcendance totale, ça veut dire qu'il y en a un qui apporte le corps, l'autre qui apporte le cœur, et le troisième qui apporte l'esprit. Mais ce qui est absolument incroyable dans Frangelico, si vous regardez des fresques ou des reproductions de fresques ou de tableaux, c'est qu'il a une simplification des couleurs incroyable, alors que ça donne une impression de richesse non moins incroyable. Et je crois que c'est le seul peintre au monde qui, lorsqu'il met de l'or, son or ne fait pas riche au sens matériel du terme. L'or de Frangelico, mêlé à deux, trois couleurs très simples, très fraîches, très, très limpides, donne une impression comme Renoir, pardon pour la comparaison, mais pour moi ça me fait ça, une impression de joie et d'intensité complète. C'est une plénitude complète. Cet or, il est joyeux, il est gai, c'est le soleil, et ça n'est pas la richesse. Ça n'est pas cet or qui écrase complètement. Donc je trouve amusant, si j'ai réuni ces trois, c'est parce que je les adore tous les trois, pour des raisons que je viens de dire tout à fait différentes, mais je ne voudrais pas que les amateurs d'art, quand je dis amateurs, c'est au joli sens du terme, ceux qui aiment les choses de l'art, il faut qu'ils s'habituent l'esprit à ne jamais penser « j'aimerais ça chez moi » ou « je n'aimerais pas ça chez moi », ce que font beaucoup de gens.
Il y a très peu de chances d'avoir chez soi un Frangelico.
Une fresque de Frangelico. Et deuxièmement, arriver à séparer, en se recueillant, la manière de peindre, les choses qui viennent sur le spectateur intérieurement, et le sujet. Et se rendre compte que très souvent, le sujet est secondaire. Le sujet, c'est juste simplement l'excuse pour dire d'autres choses. Et à ce moment-là, on devient beaucoup plus évolué et on peut aller beaucoup plus loin.
Elle est intéressante aussi, hein. On a plaisir à entendre. Il n'y a pas de coxygrue dans ce qu'elle dit, cette femme-là.
Je n'ai rien remarqué.
Vous n'avez rien remarqué, monsieur Blanzard.
Non, vous auriez dû dire qu'il n'y a pas.
Il n'y a pas.
Non, parce qu'il est très attentif, c'est son métier. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que j'étais en train de dire un message, et c'est deux messages qui se répondent, voilà. Il y a un message d'une dame qui dit « Ce monsieur qui est là est un blasphème à la raison catholique ». Ça s'adresse à vous, je pense.
Oui.
Comment Beckett peut-il se laisser rouler dans la farine de cette façon? C'est un scandale. Et puis à côté, il y a une dame qui dit « Je suis allé au pied de la croix de Dozulé, et depuis cette période, je n'ai plus ni rancune ni haine contre personne ». Voilà, c'est tout.
Oui, si vous voulez, je peux vous dire un petit mot là-dessus, c'est que le nombre de conversions est extraordinaire.
Ça, on en parlera prochainement parce que vous m'avez roulé dans la farine, vous viendrez maintenant m'enfourner et puis la deuxième fois pour me faire cuire.
On peut peut-être faire un voyage organisé des politiques au pied de la croix.
Ça ne peut pas nous faire de mal.
Ça ne peut pas nous faire de mal.
Au pied d'une croix, où qu'elle se trouve. Monsieur Blanza, vous êtes, je l'ai dit, collectionneur de coxygrues. Et c'est-à-dire que vous lisez la presse, pas comme tout le monde.
Si, comme tout le monde.
Oui, mais d'une façon différente.
Je vois des choses que les autres n'arrivent pas à voir, même quand je leur en parle, il semblerait qu'il y ait des choses qui ne passent pas tout à fait. Les gens ne lisent pas vraiment, en effet, ce que je lis.
Alors, pour l'instant, vous êtes détenteur du record mondial de qualité de la coxygrue avec le mot... de, je crois, Denis Jambard du Point,
oui,
qui voyait son...
Et aussi le petit maître de Libération, dont je ne donne pas le nom.
Oui, un petit maître de Libération, mais Jambard l'a écrabouillé une fois pour toutes, je crois, oui, avec cette personne qui se tenait qui descendait l'escalier du présent en se tenant... Oui, donnez-moi, s'il vous plaît, retrouvez-moi la citation exacte, parce qu'elle est tellement belle que ça serait vraiment dommage de la défigurer par une approximation.
Oui. Alors c'était à propos de Monsieur Mitterrand qui réorganise le puzzle de son passé sans pour autant lâcher la rampe du présent ni renoncer à tripoter l'avenir.
Voilà.
C'est un grand journaliste.
Ça, c'est
grand. Du grand journalisme.
Superbe.
Ça, c'est, à mon avis, c'est imbattable.
Superbe.
On peut pas faire mieux.
Mais ça a lieu chaque semaine.
Mais vous en trouvez d'autres, alors?
Tout le temps, à tout bout de champ, sur tout sujet.
Alors,
en l'Algérie, prête beaucoup à ce genre de choses. Quand on entend les journalistes radio annoncer le matin d'une voix tremblante, et je comprends qu'elle tremble, une nouvelle page meurtrière s'est abattue sur l'Algérie.
Une page meurtrière, oui, qui est abattue, oui, c'est intéressant.
On les plaint, mais ça fait en même temps sourire. Alors, l'effet est raté et tout le problème... En fait, le problème, c'est que tout est plus ou moins comme ça. Pour moi, ça commence dans l'ascenseur le matin. J'habite un HLM. Dans mon HLM, dans l'ascenseur, il y a un petit panneau qui indique liaison parlophonie.
Liaison parlophonie. Alors, oral, naturellement.
Sans doute.
Berk.
Sans doute. Ce n'est pas dit, mais il y a des petits trous qui le laissent, je pense, penser. Et il est bien indiqué que si on est bloqué dans l'ascenseur, il est indiqué « veuillez ER »,« renouveler ER », du verbe « veuillez ».
Du verbe « veuillez ».
C'est dans plexiglas, c'est pas dans le marbre, parce que le HLM n'a pas droit au marbre, mais c'est dans tous les HLM de Paris, et dans des formats différents, j'ai pu vérifier, réimprimer de manière différente. Et tout est un peu comme ça. C'est-à-dire que si vous trouvez une logique à quelque chose, je sais que vous vous battez pour une logique. Je me rends compte à quel point c'est difficile quand tout disparaît.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que on est fondé à un moment à se demander s'il n'y a pas une volonté de déstructuration.
Ben écoutez, en tout cas, Libération, par exemple, est une mine inépuisable de ce genre de choses. En annonçant le nouveau Libé, samedi, ils indiquaient « Désormais, les clivages qui traversent la société française dépassent les frontières partisanes », ce qui est peut-être une bonne chose. « Le foulard islamique sans contaminer, aménagement du territoire, pour mieux cerner ces débats », donc il s'agit de cerner les frontières, les clivages qui traversent. Qui traverse la société française, dépassant les frontières. Il faut cerner tout ça.
Cernons. Est-ce que vous avez cerné d'autres coxygrues?
De nombreuses choses, malheureusement, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment un temps fou.
Ah, vous avez quand même encore 2 ou 3 minutes pour nous donner d'autres exemples.
Une mine que j'ai trouvée, ce sont nos intellectuels. Parce qu'il vient un moment où vous avez besoin de vous trouver une lumière, quelque chose. Vous avez évidemment confiance dans l'université, dans les normaliens, et encore une fois, c'est Libération qui a attiré mon attention là-dessus. Monsieur Bernard-Henri Lévy...
À ne pas confondre avec Bernard-Henri,
oui, qui est
du Libre Journal.
Libre Journal, oui. Qui est un splendide journal. Je ne sais pas si on l'a dit ici, mais...
On en parle de temps en temps.
C'est un très très bon journal. Alors, Monsieur Bernard-Henri Lévy avait un combat à mener il y a de ça quelques temps, au moment des élections. Et au lendemain des élections, il a créé un lobby d'intellectuels européens. Et voici la phrase où il indiquait que Il s'agissait de la Bosnie, du Rwanda et de l'Algérie, qui, il disait, c'est fondamentalement le même ennemi, les facettes de la même nébuleuse historique.
Les facettes de la même nébuleuse historique.
C'est super. Je ne suis pas allé à l'île.
C'est une histoire de bouche.
Ben, je vais demander au sculpteur de bravoura comment elle concevrait une nébuleuse à facettes.
Eh bien, vous savez que c'est très gentil à vous de me donner un sujet de sculpture. Voilà. Je vais bientôt vous inviter à venir la voir.
Et alors ça, c'était un article. L'article du lendemain par la même journaliste, dans le même journal, qui tenait à attirer l'attention toujours sur Bernard-Henri Lévy et ses combats, faisait remarquer, on est ici parce qu'il y a... Je vous cite pas tout l'article, hein, je vous cite simplement les phrases qui prêtent à rire. On est ici parce qu'il y a une guerre en Europe.
Une larme dans le regard.
Ben c'est-à-dire, c'est parfois un rire triste quand vous cherchez encore une fois un débat d'idées, et comme c'est proclamé et c'est vendu comme débat d'idées, il y a une sorte d'escroquerie, d'abus de confiance, ou je ne sais pas, il devrait y avoir quelque chose, mais il n'y a pas de loi qui protège les gens contre les idées stupides, malheureusement. Alors, on est ici parce qu'il y a une guerre en Europe, et nous devons être hantés par cela. Donc il y a le devoir de hantise que j'ai découvert, après le devoir de
mémoire, bien sûr.
Et il apparaît maintenant que l'Europe est un leurre, le néant et sa foi et son fondement.
Oh, ça c'est amusant.
Ça vient de chez eux.
Le néant et sa foi et son fondement.
Oui, en
donc
même
on
temps.
Peut pas lui botter le fondement puisque
non.
C'est le néant.
Non.
C'est dommage.
Alors, ceci attire mon attention sur les cahiers de la règle du jeu, journal de Bernard-Henri Lévy.
Oui.
Et alors c'est un festival, parce qu'ils y sont tous. Il y a Bernard-Henri Lévy, il y a André Glucksmann, il y a Jules Herzog, il y a Françoise Giroud, enfin tous nos amis. Et enfin tous ceux qu'on aime bien revoir pour essayer de comprendre un peu mieux. Et d'ailleurs dans l'Observateur d'il y a une huitaine de jours, je crois que Jean Daniel disait à propos de ces intellectuels qu'il permettait de mieux comprendre, c'était la phrase... Sur la tragédie de l'ex-Yougoslavie, on lui a suggéré de confesser ses hésitations. Il s'agit de Jacques Delors. Il s'appelle Jacques, oui. Jacques Delors.
Oui, oui, oui.
De confesser ses hésitations et ses doutes et de reconnaître sa dette envers les intellectuels lorsqu'il est arrivé à voir plus clair dans les origines du conflit bosniaque. C'est donc grâce à BHL qu'il a réussi à y voir plus clair. Maintenant, voyons ce que dit BHL, parce que c'est intéressant.
Donc, voyons ce que dit l'homme qui a éclairé
voilà.
le conflit
ce qu'il appelle le commerce des idées, ce que je trouve une notion rigolote. C'est très 18e siècle, mais ça peut vouloir dire autre chose, et on se demande si ça ne veut pas dire vraiment ce qu'il pense.
Ce que ça dit, oui.
Oui, s'il s'agit d'idées. Bon. Alors, BHL dit donc, ne voulant ajouter, c'est une longue justification sur 3 pages, pour expliquer pourquoi il a abandonné ses électeurs au milieu du guet, au moment où il les entraînait avec l'oriflamme en avant pour la Bosnie. Et ce qu'il nous dit, c'est que c'était préparé à l'avance. Simplement, on l'a suivi alors qu'il n'y était plus. En gros, c'est ça. Alors, en gros, ce qu'il dit, ne voulant ajouter ni à la confusion ni au spectacle d'un déchirement qui ne grandissait hélas personne, j'ai préféré attendre. Et il est vrai que les déchirements ne grandissent
généralement pas.
Bref, la première des vérités à rappeler, c'est toujours Bernard-Henri qui parle, eh bien celle-ci, cette liste était un moyen de pression ou de terrorisme civique. Alors là, je trouve ça plutôt rigolo, mais dans un autre sens. Car il indique bien une nouvelle notion, le terrorisme civique. Enfin, elle est nouvelle ou elle ne l'est pas. Il y a peut-être des personnes qui pensent qu'elle n'est pas tout à fait nouvelle. Qui subissent d'autres choses. Car ce type d'arme, continue-t-il un petit peu plus loin dans l'article, il est très long, hein, je ne peux que citer quelques phrases, car ce type d'arme, chacun le sait bien, ne vaut que si subsiste une part d'incertitude, il s'agit donc de la pression ou du terrorisme civique, quant aux intentions de ceux qui la brandissent. Je trouve que ce n'est pas très, très évident à comprendre. Mais ce que nous affirmons, nous n'affirmions pas au grand jour, nous le disions entre nous-mêmes, nous le disions surtout entre nous. Comme je le dis, De tous et de tout temps, c'est un peu sa manière de parler, comme je le dis.
C'est extraordinaire d'ailleurs, c'est un aveu extraordinaire si on oui, en dehors du fatras.
Le problème c'est qu'il n'est pas lu.
Non, il ne peut pas être lu.
Il peut pas être lu. Voilà, vous avez tout à fait raison.
Mais quand
comment
il est
peut-on
lu,
le lire
quand on il est lu par lire un collectionneur de coxigrues, on s'aperçoit que parmi les coxigrues, il y a quelques pierres précieuses.
Il y en a beaucoup
qui disent la vérité, c'est-à-dire qui disent vous êtes peuple, tu es un rassemblement de têtes de...
Oui.
De Chut, voilà, censuré. On ne dira pas. Mmh. Et nous, qu'on est vachement plus fort que toi, entre nous, on cause et on dit les choses que toi, tu ne sauras jamais.
C'est tout le sens de ce journal que personne, en effet, n'a décrypté. Pour
sauf vous.
Bah,
ça, quelle est la vraiment... racine de coxigrue, pardon, je vous ai coupé.
Ah, je ne saurais vous le dire.
Eh ben, on fera une enquête.
Bon.
Non, parce que c'est moi qui
exactement.
C'est mon fils qui a baptisé Monsieur Blanza collectionneur de coxigrues.
André Glucksmann qui écrit dans le même journal. Je ne veux pas couper votre.
Non, je vous en prie, allez-y, c'est plus intéressant.
Non, pas du tout. Mais c'est drôle. Disons que c'est intéressant parce que il a une notoriété supérieure à
la nôtre.
Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Uniquement. Alors, indique dans son texte, car François Mitterrand cultive une botte secrète imparable. Alors, je me demande
une botte de quoi,
oui, évidemment, il la cultive. Il agite les clés du paradis sous le nez de chaque leader, caressant l'ambition à court ou moyen terme de lui succéder. Le hochet fonctionne, silence dans les rangs.
C'est génial.
Ça, c'est tout un problème.
Alors, en plus, j'espère qu'il fait ça tout en descendant l'escalier du présent, en se tenant à la
porte
de l'avenir.
En agitant son trousseau de clés sous le nez de chacun. Ça, c'est quand même une performance. Hein.
Monsieur Blanza, merci.
Le problème est justement quand on essaye de comprendre quelque chose à partir de là.
Oui.
Eh bien, on se dit que quand on voit ce qu'on voit, quand on sait ce qu'on sait, on a
raison
de penser ce qu'on
pense.
Et puis on comprend bien que les institutrices, dès la maternelle, elles essayent de leur faire lire ça aux petits.
Oui.
Ça, c'est pour les habituer jeunes. Hein.
Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur l'éducation. Et fois prochaine, je pense d'ailleurs.
On va parler d'éducation la prochaine fois.
Voilà.
Merci à tous. J'ai combien de temps pour faire des annonces? 3 minutes. Alors, je vous rappelle quoi. Oui, vous avez la parole, ma pauvre Victoria. Après, moi, si vous le voulez bien.
Dépêchons-nous.
Le 2 octobre 94, 4e marche pour la vie, 11h15, messe à Notre-Dame-du-Lys, 14h, départ de la marche, 8 km, au métro Sèvres-le-Courbe, 16h30, allocution devant le Sacré-Cœur, et 17h, salut du Saint-Sacrement dans la Basilique. Ça se passe avec Madame Christine Boutin, Madame Jérôme Lejeune, les mouvements pro-vie, et ça, le soutien du professeur Lucien Israël, et vous l'avez peut-être remarqué, de Serge de Bécatch. C'est moins important que le professeur Israël, mais après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Demain, jeudi 29 septembre, les compagnons de Saint-Michel-Archange fleuriront la statue de l'Archange à la Fontaine Saint-Michel à Paris, 7h du matin, et une messe sera célébrée à 20h30 à Sceaux-les-Chartreux, dans le 91.
Je vous rappelle que le dîner du Libre Journal, j'allais faire un lapsus, le dîner du Libre Journal, dîner traditionnel du Libre Journal, aura lieu le 21 octobre.
C'est un quoi?
C'est un vendredi. Vendredi 21 octobre à 20h, à bord de la frégate Le Zouave, sur la Seine. Et le prix est de 220 francs.
Question d'une auditrice. Espiègle, le repas dont vous avez parlé sera-t-il maigre ?
Non, parce que comme on sera dans un bateau, on sera donc en voyage, et vous savez qu'en voyage, on n'est pas obligé de faire maigre. Moi aussi, je sais être jésuite un peu quand il le faut. Jean-Pierre Tardif donnera un cycle de conférences à 18h, enfin une conférence à 18h le mardi 4 octobre 94 sur Richard Vanier et Mathilde Vézan donc le mardi 15 novembre 94 sur Clara Schumann et Johannes Brahms. Ça se passe à la Fondation Dône-Thiers, 27 place Saint-Georges, 75-009, Paris métro Saint-Georges.
Message personnel à propos du dîner. Je remercie beaucoup l'auditeur qui veut bien m'emmener, mais c'est pas une affaire de voiture, c'est une affaire de sommeil.
Je comprends absolument rien. Ah oui, non, c'est pour Victorien, c'est vous, oui, d'accord.
C'était un message personnel.
Martel, le dimanche 30 octobre 94. Je vous le signale, on en reparlera plus longuement.
Atelier de l'éclipse, jeudi 6 octobre,
On a encore le temps. Serge de Bekech fait une conférence. Tiens, c'est vous.
C'est pour ça que je vous ai passé.
Politique, argent, publicité. Action française, 10 rue Croix des Petits Champs, Paris 1er, téléphone 42 36 02 84.
Voilà. Non mais Action française, c'est pas le sujet.
C'est l'atelier de l'Éclipse, et ça se tient tous les premiers jeudis du mois, donc le jeudi 6, mais l'adresse 3 rue Asile Popincourt, Paris 11e.
Voilà, donc j'irai à l'asile. Et puis le centre André-Henri Charlier organise le mardi 18 octobre, mais ça on en reparlera aussi, une conférence de Jean Dumont, historien, quand l'Église défendait l'identité chrétienne et française.
Oui, c'était bien André Bauger que vous avez entendu tout à l'heure chanter. Madeleine Renaud n'a pas rejoint son mari, mais ses maris.
Oh, je ne sais même pas si c'est vrai, si. Bon,
mais oui, mais enfin, oui, mais bon, oui, mais ça ne fait pas. Rien.
Il y a deux livres dont je voudrais vous parler pendant une minute. Je peux.
Mais
une
non,
demi-minute.
On déborde déjà. Alors,
le premier, absolument à lire, mais c'est impératif, parce qu'on en a très peu parlé. Ça s'appelle « Tous fichés » de Claude-Marie Vadreau et Louisette Gouverne. Et c'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Ça montre comment les cartes à puces permettent de vous ficher dans tout ce que vous faites. Si vous téléphonez, on sait d'où vous appelez, qui vous appelez, combien de temps. Si vous passez un péage d'autoroute, on sait que vous êtes passé. Oui, vous vous en foutez parce que vous êtes impur, Philippe. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on sache où ils sont, par exemple des militants révolutionnaires, eh bien, n'utilisez pas les cartes à puce. Alors ça, c'est chez First Edition. Tous fichés à lire absolument pour savoir dans quel monde vous vivez. Et puis, si vous vous intéressez à la question du sida, ça peut ne pas vous concerner, mais ça peut néanmoins vous intéresser. Il y a un livre qui, à mon avis, est définitif sur cette question, de Michel Bounan. J'ai lu ça hier soir. Ça s'appelle « Le temps du sida ». Et pourtant, c'est paru il y a 3 ans, aux éditions... J'ai le bouquin sous les yeux, mais naturellement, aux éditions Alia, 16 rue Charlemagne, Paris 4e. C'est un médecin qui a écrit ça. Et c'est « Cul par-dessus t'étend ». Hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est joli. Merci, je dis plus rien.
Et je rappelle que L'avenir avant l'an 2000 de Jean Stiegler est aux éditions du Rocher, 125 francs, et vous pouvez le commander à ACB 14432 Zulé pour 125 francs plus 25 francs.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, daté du 28 septembre 1994, rediffusé ce dimanche 29 décembre 2013 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM de l'émission des 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.